Bon, salut à tous, bienvenue sur l'Imperium. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast à deux avec David pour vous parler un petit peu de lui. C'est la star du jour. Et déjà, comment ça va, David?
Ça va très bien, écoute, et toi, il est un petit peu tard, mais je sais qu'Amaury est au milieu de sa journée, donc ça doit le faire.
Mensonge, mensonge. Donc, on va prendre le temps un petit peu de revenir sur en fait plein de choses. J'ai plein de choses à demander à David et tout. Puis comme c'est un de nos ambassadeurs, je trouvais ça intéressant de finalement vous proposer un petit peu le même format qu'on avait d'ores et déjà fait avec Romain qui était passé sur l'Imperium. Je trouve que c'est très sympa et ça nous permet un petit peu d'en dire plus sur nous. Et aujourd'hui, ce sera plus sur David, parce que finalement, je sais que beaucoup d'entre vous veulent être coach, veulent être athlète. Et c'est bien de voir un tel qui a réussi, de voir un tel qui a accompli certaines choses, mais c'est aussi bien de voir le côté humain derrière, de voir là où il a échoué, comment il a commencé, comment il voit les choses, comment il appréhende l'avenir, etc. Et je trouve que c'est toujours bien de mettre ce petit côté humain à côté des photos Instagram et des physiques impressionnants et des résultats sur scène. Puisque vous, si vous voulez arriver au même résultat, vous allez vivre très certainement des choses similaires, et donc c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul. Donc, déjà, David, je vais te laisser te présenter un petit peu. Comment tu t'appelles? David.
C'est déjà dit, bah écoute. Hein?
Voilà, te présenter un petit peu, voilà, globalement, puis ensuite, on retracera un petit peu ton parcours finalement.
Bah écoute, moi c'est David. Comme tu l'as si bien dit, j'ai 25 ans. Je suis coach. J'ai commencé en salle dès que j'ai eu mon diplôme en 2020. Et avec les confinements, etc., j'ai développé le côté coaching en ligne. Ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, j'arrive à en vivre seulement de ça, du coaching en ligne. J'ai plus à me déplacer dans les salles pour coacher. Et puis à côté de ça, je suis athlète en bodybuilding, enfin en KT classique physique plus précisément. Et puis voilà, j'essaye de me développer dans mon travail et dans ma passion qui se rejoignent finalement. Mais voilà, j'essaye d'évoluer dans les deux secteurs, tout simplement. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ça fait 10 bonnes années que je m'entraîne et bientôt 4 ans que je coache du coup.
C'était quoi un petit peu le déclic pour débuter l'entraînement, puis ensuite partir vers les compétitions? Est-ce que ça s'est fait peu à peu ou il y a eu des...
Disons que mon frère s'est toujours entraîné. Enfin, j'ai toujours vu mon frère s'entraîner dans le sens où il a dû commencer la muscu quand il avait 12 ans. Avec le matériel. Ma mère lui avait acheté du matériel à Decathlon pour Noël, tu vois. Et lui, en fait, parce que quand il avait 12 ans, j'avais 9 ans, 10 ans. Donc, en fait, pendant toute mon enfance, préadolescence, je l'ai vu s'entraîner à la maison, tu vois, faire des abdos, du développé couché. Tu sais, en plus, à l'arrache, le développé couché, on avait le banc, mais sans les racks. Donc, en fait, moi, il fallait que je lui donne la barre, tu vois. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il faisait tout ça. Je me disais, pourquoi il se fait tant de mal, c'est fou. À côté, je faisais d'autres sports. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait de la gym, du basket, de la natation. Surtout du basket. J'ai essayé le judo aussi. Enfin, je faisais du sport, mais la musculation, je comprenais pas trop. J'étais très fin. Je savais au fond de moi qu'il faudrait peut-être que je m'y mette un jour, mais voilà. Ça me bottait pas trop. Mais bon, je voyais mon frère de loin faire ça. Lui, il me montrait les bodys en plus. Hein. Parce que il me montrait à l'époque les vidéos de motivation de Jay Cutler et tout. Moi, je me disais, ça va pas, c'est pas possible. Comment ils peuvent leur devenir comme ça, tu vois? C'était inhumain pour moi. Et puis, arrivé à l'adolescence, vers 14-15 ans, pour le coup, c'est là où tu commences à faire un petit peu plus attention à ton apparence, ton corps et tout. Et je me sentais pas très bien en plus, j'étais très maigre. Je faisais la taille que j'avais là à 15 ans, donc 1m74, 75. Et je faisais 53 kilos, donc ça fait léger. Et ça se voyait, tu vois. Ma mère me le disait, même si voilà, ça l'embêtait pas tant que je sois mince, juste c'était un fait, tu vois, j'étais très maigre. Mon frère, lui, il se moquait pas mal de moi. Puis tu vois, autour de moi, en fait, j'étais tellement maigre, je me rappelle que des fois, on rentrait dans les magasins, et genre, il y avait des groupes de gens, de filles aussi, qui s'arrêtaient, qui disaient, putain, regarde cette crevette, tu vois. Et tu sais, c'est à cette période-là que ce genre de commentaires et tout, ça commençait à me toucher un peu à mon amour-propre.
Je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé sur un complexe ou un truc finalement, surtout à cet âge-là. Surtout nous qui ont eu finalement dans un sens la chance d'avoir commencé tôt, souvent c'est un complexe ou un truc, puis peut-être dans un coin de la tête aussi des modèles un peu plus musclés, tout ça.
C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, à 15 ans, fin de mes 14 ans, début de mes 15 ans, ma rentrée au lycée, je me rappelle. L'été venait de se passer, j'avais assez subi mon corps un peu naze pendant tout l'été. Du coup, j'ai dit à mon frère, vas-y. Lui, il était déjà inscrit en salle, il avait l'âge de s'inscrire en salle, moi, j'avais pas l'âge. Donc, je lui ai dit, vas-y, est-ce que tu peux me ressortir le matériel que tu avais? Et je vais m'y mettre. Et lui, était tout content, parce que c'est ce qu'il voulait depuis un moment, tu vois, que je le rejoigne un peu là-dedans. Donc, il m'avait fait un programme sur papier et tout. C'était un truc, putain, je l'avais retrouvé quand j'ai déménagé il y a pas longtemps. Mais en soi, c'était déjà bien élaboré, tu vois. C'était ce qu'il fallait faire. Des séries longues, beaucoup de volume pour apprendre les mouvements, pour apprendre à congestionner et tout. Donc, il m'avait fait un programme sur papier, il m'avait fait une diète. C'était n'importe quoi. J'étais très maigre, donc, tu sais, on
La
n'avait pas
diète, je
nos
crois que tu m'en
connaissances,
avais
il n'avait pas non
parlé.
plus les connaissances de maintenant. Il savait juste qu'il fallait que je mange beaucoup vu que j'étais mince. Donc c'était un truc, mais ça a marché. Hein. La première ligne muscu, gros, j'ai en m'entraînant dans ma chambre. Je suis rentré en seconde à 53 kilos. Je suis sorti de la seconde, donc 9 mois après, à 83.
Putain de
J'étais
merde.
gras, hein. J'étais gras, mais j'ai pris 30 kilos en un an, dis-toi.
83. Oh la vache.
Mais je vais t'expliquer la diète. Mais après, il y avait du fat. Hein. C'était vraiment un méga gros bulk. C'était la plus grosse prise de masse que j'ai fait. Je faisais. Il m'avait dit de manger. C'était des trucs faciles à manger. Enfin, le matin, j'avais 200 grammes de Smax. Tu sais, les céréales, les Smax.
Mais je connais pas.
À midi, il m'avait dit de manger 200 grammes de riz cru avec une escalope ou un steak. Je pesais pas la viande. Il m'avait dit, tu mets une escalope ou un steak. Je rentrais chez moi au goûter avant de m'entraîner. Il mettait la même chose que le petit déj, c'était. Il m'avait dit, tu manges 200 grammes de Smax avec du lait pour les protéines, le lait. Et après l'entraînement, oh putain mec, c'est infâme. Je cassais deux œufs. Tu sais, en mode Rocky, je cassais deux œufs dans une tasse,
Et
je
tu
les
les bois
buvais.
après? Oh là là.
Et je mangeais trois tranches de blanc de poulet, tu sais, les tranches là. Et je mangeais ça. Et puis le soir, je mangeais la même chose que le midi après. 200 grammes de riz pesé cru, une escalope. Et mon
Après,
frère
tu
m'avait
sais.
bien dit, mais il m'a dit, tu manges. Il m'a dit, ça c'est ta diète de base, c'est le minimum. À côté de ça, s'il y a un truc qui passe dans ta classe en cours, machin, un truc, il m'a dit, tu le manges. Quelqu'un sort un truc à manger, tu lui demandes si tu peux le manger. Quelqu'un a ramené des pains au chocolat, machin, il m'a dit, t'en manges. Il m'a dit, il faut que tout ce que tu peux consommer, tu le consommes.
Si tu
Du
l'as
coup,
vu,
j'avais
tu
fait
le
ça.
manges.
Hein?
Si tu l'as vu, tu le manges.
Je te jure, c'est ça. Et au final, ça a bien marché. Enfin, ça. À refaire aujourd'hui, j'aurais pas fait les mêmes erreurs, j'aurais fait un truc mieux, c'est sûr, mais au final, tu vois, comme quoi.
Bah,
Quand on débute.
je suis assez d'accord parce que, bon, le plan est évidemment pas l'idéal, mais
Oui.
je sais que personnellement, il y avait Rich Piana qui m'avait fait en fait fait comprendre qu'il fallait juste bouffer, 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 tu vois. Et genre, je faisais des repas pas cohérents, mais au final, je mangeais suffisamment et ça m'a réellement fait passer un cap physiquement, en fait, de vraiment me goinfrer et comprendre qu'il fallait au bout d'un moment me goinfrer. Après, en
C'est
général,
ça.
quand on est jeune, l'exécution, elle n'est pas parfaite, c'est normal. Et surtout quand on est tout seul, ou alors, bon, on n'a pas forcément des potes ou un frère qui s'y connaît tant que ça,
Surtout
mais
que c'était
bon.
2013.
Bah oui, tu vois.
On n'avait pas les connaissances, tu vois. C'était. Les vidéos de T-Bone Shape sortaient même pas encore. Enfin, tu vois.
Après, tu peux.
C'était.
À 2013, tu peux quand même bricoler pas mal de choses. On connaît la nutrition depuis des années, mais je veux dire, en tant que
Ouais.
pratiquant, ouais, tu commences et tout, t'es un peu paumé, quoi. Mais ouais, comme quoi, des fois, faut juste bourriner, quoi. Tu vois, j'ai un client qui est vachement maigre. De base, en fait, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement les détails de la diète, c'est avant tout gonfler la diète au fur et à mesure, quoi, parce que prendre du poids, c'est le seul objectif. Donc ouais, bref, tout ça pour dire que c'est pas l'idéal, mais quand même,
Et
l'idée est là, quoi.
c'est ça, mais surtout le truc, et c'est pour ça que j'en avais parlé même dans l'autre podcast qu'on a fait, c'est qu'au final, pendant un an, j'ai gardé un truc tous les jours. Tu sais, c'est ce fait de, pour la première fois de ma vie, adhérer à un truc et manger la même chose tous les jours, même quand j'ai pas faim, même quand machin. Ben, au final, c'est pour ça que je pense que l'adhérence, ça reste quand même un point clé, parce que ma diète était, elle était naze, enfin, tu vois, c'était pas une bonne diète, même si elle était très haute en calories, mais vu que je m'y suis collé, ben, ça a quand même marché d'une certaine façon, tu vois.
Ah, c'est
Donc
important.
ouais. Donc voilà, donc après ça se poursuit, j'étais au lycée, je continue de m'entraîner. À 16 ans, fin de mes 15 ans, 16 ans, je m'inscris à la salle de la gendarmerie qui était pas loin de chez moi. On pouvait y aller. Et c'était une petite salle et c'était pas cher, c'était 80 euros l'année. À l'époque, ma mère, elle voulait déjà pas trop que je fasse de la muscu, donc elle n'allait pas me payer un abonnement. Puis j'avais pas encore l'âge de pouvoir bosser, donc voilà. Donc elle m'a dit, ok, c'est 80 euros l'année, tu peux y aller. Donc je me suis entraîné là-bas pendant un an, 2 ans. Et puis après, quand j'ai eu l'âge de commencer à bosser, j'ai commencé à bosser à 17 ans, et puis là, du coup, j'ai pu m'inscrire à Fitness Park, et puis voilà, je continuais de m'entraîner avec mon frère. C'est d'ailleurs à 18 ans, quand on s'entraînait dans cette salle-là, Fitness Park, mon frère a rencontré un monsieur qui s'appelait Gérard Buneau, qui est un ancien culture, peut-être que certains connaissent s'ils viennent de Lyon ou qui s'intéressent vraiment au bodybuilding des années 80. Mais c'est un ancien culturiste qui a fait Olympia. C'est un des seuls Français qui faisait Olympia à cette époque, avec Jacques Neuville et je crois qu'avant eux, il y a juste Serge Nubret qui est passé. Je crois que c'est tout. Après, il y a eu Ben Fato et tout. Enfin bref. Et donc ce monsieur, vu que mon frère le connaissait, il l'avait vu dans des magazines et tout, il allait le voir. Et assez surpris que quelqu'un le connaisse malgré tout, il a dit, bah vas-y, si tu veux, je t'entraîne, toi et ton frère, pendant l'été, tu vois, pendant 2 mois. Bon, c'était les entraînements très à l'ancienne, tu vois. Il avait les méthodes d'Arnold et compagnie. C'était 5 heures d'entraînement, mais on avait le temps, tu vois. C'était les grandes vacances, j'avais pas cours. C'était 5 heures d'entraînement par jour, donc 2h30 le matin, 2h30 le soir.
Oh putain.
C'était super dur, mec. C'était très très dur. En fait, t'avais l'impression que son but c'était de t'étouffer, tu vois. Mais du coup, voilà, il nous a appris l'entraînement très très dur. Il nous a fait revoir, par contre, très intéressant. Il nous a fait revoir nos mouvements. Parce que on mettait pas beaucoup d'amplitude et tout, tu vois. Sur les premières années, c'est vrai qu'en salle avec mon frère, on voulait faire monter les charges et tout, puis ça s'est vite transformé un peu en ego lifting sur les mouvements principaux. Et quand ce mec-là nous a repris, il a vu nous développer et nos squats, il a dit, oula, mets la barre à vide, vas-y. Mets la barre à vide et fais un vrai mouvement. Et au final, on a tout recommencé à zéro à ce moment-là. Les squats, les développés, les élévations, tout. Et finalement, pendant un été, on s'est certes trop entraîné, mais on a réappris à s'entraîner. On a réappris à s'entraîner de plus ou moins de la bonne façon, même si à l'époque j'étais naturel, enfin on était naturel, il y avait pas, on n'avait pas de bonne capacité de récupération pour assumer ce genre de training, donc ça marchait pas tellement. Mais au final, on a réappris l'entraînement et du coup c'est lui qui nous a un peu transmis ce truc des compétitions parce qu'il nous donnait des anecdotes et il nous parlait de son époque et de sa carrière. Donc nous, même si on s'intéressait à ça avant, on s'était jamais dit vas-y, je vais essayer. Mais lui nous a vraiment donné envie, le fait de l'écouter et tout. On s'est dit, vas-y, peut-être que même, on pourrait essayer. Donc ça, c'était en 2016. Et je me rappelle qu'en novembre 2016, du coup, il y avait une compétition qui s'appelait le Gymenco, pas loin de chez nous à Lyon. Enfin, c'était à Saint-Étienne, c'est pas très loin. Et on a dit avec mon frère, vas-y, bah, si elle se passe là en novembre 2016, ça veut dire qu'elle se repassera en novembre 2017. Donc pendant un an, on va s'entraîner, se préparer pour cette compétition. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a fait notre première compète en 2017, avec l'aide, du coup, cette fois-ci, d'un autre ami qu'on a rencontré bah sur notre petit bout de chemin, qui s'appelle Gérald, qui nous a pris un petit peu sous son aile. Parce que malgré tout, bon, une fois qu'on démarre la compétition, surtout que bah, ma première préparation, je ne l'ai pas fait naturellement, contrairement à plein de gens. Parce que je savais que dans tous les cas, bon, je m'étais dit, vas-y, autant faire le truc à fond, quoi. Et donc, il nous a aidé sur toutes les choses qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai fait le Grand Prix Gymenco à 19 ans, en premier pas. Parce qu'il y en a certains qui connaissent dans les Grands Prix, des fois il y a cette catégorie pour les personnes qui font leur première compète. Bon, t'es avec des adultes, enfin t'es avec tout âge en fait, c'est juste t'es en body et puis ça doit être ta première compète. On était une tripotée, on était genre, je crois qu'on était 15 en premier pas, et
C'est pas
j'avais fait
mal.
troisième. J'étais surpris de faire troisième. J'avais une bonne condition, une belle densité, j'étais pas très gros, je faisais 60. 13 kilos, 72, 73, mais la condition et la densité font que j'avais réussi à sortir du lot, même avec les adultes. Donc j'avais fait 3e sur 15 en premier pas. T'as dit, toi, mec, à cette compète, il y avait, tu vois, Florian Thorez,
Et ça?
le gars de Yacine, Flow Classique
Ouais,
Physique sur
ouais.
Insta. Et ben, dis-toi qu'il était contre moi au premier pas.
Ah oui, sérieux, il y avait
Abusé.
combien?
Moi, je te jure, quand je retombe sur les photos, je me dis, putain, on a fait notre première compète dans la même caté. C'est ouf.
Et
Mais il
il
était
avait fait
pas
quoi comme
encore.
classement?
Il était bien. Hein?
Il avait fait quoi comme classement?
Peut-être cinquième, un truc comme ça.
Ouais, ok.
Peut-être cinquième. Donc moi j'avais fait troisième. Après j'avais fait la catégorie junior qui était ma vraie caté. J'avais fait deuxième. Deuxième derrière. On était
Maradon.
une tripotée, on était plus, on était 20. Deuxième derrière Yann Maradon, s'il y en a qui connaissent.
Qui est naturel, donc comme quoi.
Ouais, bah ça m'avait un petit peu mis un petit coup, je m'étais dit putain comment ça se fait. Et puis j'avais fait Men's Classic à l'époque, ça s'appelait. Et là, je ne m'étais pas trop démarqué, j'avais fait quatrième, mais on n'était pas beaucoup, on devait être 6 ou 5. J'avais fait quatrième. J'avais enchaîné 3 KT, ça s'enchaînait à ce moment-là. J'avais passé genre 1 heure sur 7.
Putain de
J'ai
merde.
kiffé. Et justement, j'avais tellement adoré ce moment sur scène et tout, même si la prépa avait été super dure. Ta première prépa, tu prends toujours un coup, tu vois. Genre, tu vois, moi, le
Raconte,
bodybuilding, je
raconte.
voyais sur Internet, j'avais les anecdotes. Mais une fois que tu vis vraiment la première prépa, tu pètes un câble. Tu te dis, mais pourquoi c'est si dur ce truc?
Mais tu vois, ça, j'en parlais dans mon podcast, genre, bah, hier. C'est qu'en fait, on a beau te dire avant que tu le commences, ouais, tu vas voir, tu vas être fatigué, ouais, tu vas voir, tu vas avoir faim, tu vas perdre de l'objectivité vis-à-vis de ton physique. En fait, tout ça, genre, on a beau te le dire, ça percute pas tant que tu l'as pas vécu, quoi. Parce que tu sais, j'ai
Je
beau te dire, bah écoute, tel sport, je trouve ça très dur, tu vas te dire, ah ok, c'est compliqué. Mais en fait, quand tu vis le très dur, là, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, en fait, là c'est vraiment chaud. Mais
grave,
moi, je me
grave,
souviens que
grave.
tu me disais qu'avec ton frère, vous vous appeliez parce que vous étiez au bord de craquer et tout pour vous soutenir. Et ça, je trouve c'est super parce que, en général, on est souvent tout seul dans cette putain d'aventure, surtout la première fois. Et je trouve ça super qu'avec ton frère, finalement, vous ayez fait la même compète, vous ayez fait votre première prépa ensemble et que vous étiez autant l'un avec l'autre, quoi.
C'est ça, parce qu'on n'habitait déjà plus ensemble. Moi, j'habitais avec ma mère. Lui, il avait déjà déménagé avec sa compagne de l'époque. Et c'était surtout lui, pour le coup, la diète. Moi, j'étais fatigué, j'avais faim et tout, mais je savais, j'avais, entre guillemets, signé ce contrat avec moi-même dès le début. J'avais dit, bah, si je veux le faire, je le ferai à fond. Il n'y a aucun moyen que je craque, tu vois. J'ai dit, dans aucun monde, je vais craquer. Et mon frère a un peu plus de mal avec le régime. À la base, il est un peu plus gourmand que moi. Et du coup, il a jamais craqué, mais putain, c'était dur. Je me rappelle, c'était dur. Donc, ouais, des fois, on s'appelait. J'essayais de lui dire, non, vas-y, tu sais quoi, je lui disais, on l'a dit, on va le faire. Il n'y a pas de. On va le faire, t'inquiète. Je lui disais, reste tant de semaines. Et au final, on révisait
Surtout
notre posing ensemble comme on pouvait.
que les
Ah?
semaines, surtout que les semaines passent avec une lenteur.
Ah, laisse
Tu
tomber.
vois, quand tu dis à un mec en prépa, vas-y tranquille, il reste 5 semaines, ça paraît être interminable.
Le bout du
Ça
monde.
paraît être
Je te
la
jure.
fin du monde.
Je te jure. Et je me
Chaque
souviens
journée.
que les 3 dernières semaines, parce que à l'époque j'étais en cours et du coup j'en profitais pour bosser pendant les vacances. Et j'avais mon BAFA, donc quand je trouvais pas de boulot autre que ce que je pouvais faire en animation, bah, je bossais en animation. Donc les 3 dernières semaines de prépa, c'était des vacances. Ou les 2 dernières semaines, je sais plus. Et du coup, je bossais dans un centre aéré avec les gamins. La directrice, elle voulait me virer tellement j'étais inefficace, gros. Elle me disait, mais pourquoi tu restes assis toute la journée? Je disais, mais j'aimerais bien faire autrement, mais j'y arrive pas, je comprends pas. Elle ne comprenait pas pourquoi, tu vois. Surtout qu'à l'époque, le body, gros, t'étais un ovni quand tu faisais ça en 2017, tu vois. Et elle me disait, mais explique-moi et tout. Bah, je lui disais, mais elle pouvait pas percuter. Et ouais, elle m'avait dit, écoute, si les prochaines vacances tu veux rebosser, reviens pas dans cet état. J'avais dit, bah, promis, de toute façon, ce sera fini à ce moment-là, tu vois. Et putain, je me rappelle, j'y étais retourné après, du coup, je leur avais montré les photos de la compète, si t'étais curieux. Il m'avait dit, ouais, tout ça pour ça. Mais, enculé, bah, tu comprends pas, c'est tout. Et ouais, et donc, du coup, ouais, j'étais vraiment cuit. Et c'était la première fois que je le vivais. Mais malgré tout, tu vois, le jour de la compète et la scène et tout, j'ai tellement apprécié que bah, ce jour-là, je me suis dit, en fait. C'est la première fois, et Dieu sait que j'ai fait des sports, et j'en ai fait beaucoup, et surtout du basket sur la fin. J'ai fait 9 ans de basket, mais étant petit, j'ai testé plein de trucs, et c'est la première fois que je me sentais vraiment à ma place dans un sport. Et quand j'étais sur scène, je me suis dit, en fait, c'est là qu'il faut que je sois, tu vois. C'est la première fois que j'avais autant confiance en moi dans un sport, que je me sentais autant à ma place et tout, et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Je vais essayer petit à petit de gravir les échelons de ce sport comme je peux, quoi.
Et tu vois, jamais jamais pensé à ça de cette manière-là, de me dire j'ai fait d'autres sports avant et je me suis jamais senti aussi confiant dans celui-ci. Mais au final, je pense que c'est pareil pour moi, tu vois. Genre, j'ai pas fait 36 000 sports avant, mais j'en ai fait. Et je pense que ouais, le bodybuilding, dès que j'ai foutu mon premier pied sur scène, même si j'étais un gamin et j'étais tout maigre et tout, je me suis tout de suite dit, putain, c'est ça en fait. Tu
Je me rappelle parce que j'étais là, pas à ta première, mais à la finale.
vois. Ouais, la
J'étais venu
deuxième.
voir Dylan à l'époque. Et j'étais là et je t'ai vu poser. J'ai dit, c'est marrant, on dirait Arnold, mais en maigre.
Mais sans les
Il lui
muscles.
posait super bien et tout. Je me suis dit, purée, ce mec. T'sais, tu vois, ça sortait déjà du lot, même si t'avais pas. T'avais le physique que t'avais, tu vois, c'était le début. Mais ça sortait déjà du lot avec le posing et tout. Je me suis dit, purée. Mais ouais, putain. On voyait que t'étais à l'aise et tout, quoi. C'est ouf.
Ouais, bah.
Et puis, ouais.
Donc, bref, tu
Et
gravis
du
les échelons et vas-y, du coup, la suite, parce qu'au final, t'as pas enchaîné de deuxième compétition après ce JP.
En fait,
Tu
ce que je me
voulais
suis
pas
dit, je me
ou
souviens.
t'as pas réussi à t'y remettre ou.
En fait, ce que je m'étais dit, je me rappelle très bien, j'avais déjà un peu cette notion du fait que ça prenait du temps et qu'il fallait que je maximise mes chances en prenant le temps de.
Eh
Bah, que
putain,
ça
ça.
prendrait du temps de faire du muscle et tout.
Si plus de personnes se disaient ça.
Oui, je sais pas comment ça se fait, mais j'avais déjà cette conscience. Même si je venais de commencer un petit peu de l'autre côté, parce qu'il y avait. Bah, du coup, ma première prépa, c'est là que je n'étais plus naturel et tout. Je savais que dans tous les cas, ça prendrait du temps de progresser. Et du coup, ça, c'était en 2017. J'avais 19 ans. Et j'ai calculé dans ma tête, j'ai dit, OK, là, j'ai fait deuxième en junior sur un Grand Prix. J'ai 19 ans. Je peux encore faire junior jusqu'à 23 ans. J'avais dit, eh ben, je vais attendre d'avoir 22 ans. Donc, dans 3 ans, j'avais dit championnat de France 2020. Je remonterai et je gagnerai le championnat de France en junior. Et pendant 3 ans, je me suis entraîné en pensant à ça. Me préparer. Je me rappelle que c'était
Oui,
mon
c'est vrai,
réveil
parce que
sur
t'as
mon
rien fait
téléphone.
entre les deux. Ouais.
Oui, parce que dans ma tête, je
Oui.
m'étais dit, je vais prendre le temps de prendre toute la masse qu'il faut, toute la masse possible, et je remonterai en 2020. En 2020, j'aurai 22 ans. Je me suis dit, comme ça, si je me loupe à 22 ans, j'ai encore mes 23 ans pour la faire. Et du coup, ce que j'ai fait, je me suis tenu au truc. J'ai commencé ma prépa, du coup, après 2-3 bonnes années de prise de masse. J'ai commencé en fin 2019, parce que les championnats de France, tu sais, à l'époque, il y avait c'était, bah, tu faisais les mêmes en plus. C'est là qu'on devait tomber l'un contre l'autre. Putain,
Exactement.
abusé.
2020,
Hein?
2020, ça régalait.
Je te jure.
Je
Et
serais toujours un
du coup.
petit peu déçu, même si j'y pense jamais, j'avoue, mais je serais toujours un petit peu déçu de jamais avoir vu l'issue du coup. Parce que
Je te
ça
jure.
régalait. On se taillait un peu là.
Je te jure. Ouais, grave. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait toute la prépa. Et puis, bon, on sait ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu les confinements, les trucs. J'étais tellement frustré. En plus, franchement, ça faisait du coup tellement de temps. Ça faisait 3 ans, je pensais qu'à ça, tu vois.
Oui.
Et je me disais, purée. Et du coup, ouais, en plus de prépa, je peux pas dire que ça a été la plus dure, mais c'était une prépa un peu à 100 à l'heure, dans le sens où je venais d'avoir mon diplôme, donc je commençais à coacher en salle. Il fallait que je fasse beaucoup d'heures pour qu'un maximum de gens me voient à la salle et tout, que je puisse prospecter un max. Donc j'étais à Basic Fit à l'époque à Lyon. Donc je passais ma vie à la salle, plus à côté, j'avais gardé 24 heures à Steak and Shake. Je faisais des frites. Parce que bah, quand tu commences le coaching en indépendant, t'es pas tout de suite rentable, tu vois.
Oui.
Donc il fallait quand même que je gagne de l'argent. Donc du coup, putain, gros, je bossais je sais plus combien d'heures par semaine. Je me levais à 5 h le matin pour m'entraîner à 7 h. À 9 h, j'étais à Steak and Shake pour faire des frites. Après, à
En prep.
midi, j'allais à la salle prospecter. Et des fois, je devais revenir le soir. Enfin bref, c'était. Mais au final, tu sais, quand t'es grave occupé comme ça, et c'est là que je peux faire la différence avec maintenant. Quand t'es grave occupé, t'as même pas le temps de penser. T'as pas le temps de penser, t'as des trucs à faire, t'as tes gamelles dans ton sac, tu les manges, tu machin. Bon, Steak and Shake, j'avais des burgers qui me passaient sous le nez. Ça sent bon, mais je me disais, bon, faut que je sois champion de France.
C'est
Et
vrai,
du
ça,
coup, ouais.
petite parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que quand t'es très occupé, que t'as un rythme de vie qui est vraiment effréné en prépa, finalement, certes, c'est fatigant physiquement, mentalement, dans un sens, mais ça te permet aussi, en fait, d'être sur les rails, quoi. Genre, t'as pas une minute à perdre de sommeil, t'as pas une minute à perdre pour bouffer, t'as pas le temps d'être chez toi à faire un truc super bon pendant 20 minutes, ensuite le manger, puis te dire, putain, j'aimerais bien un truc en plus, et devoir lutter contre. Non, non, là, tu manges, tu bosses, tu fais ceci, tu fais cela. Dans un sens, c'est pas trop mal non plus.
C'est vrai, c'est clair, et c'est pour ça que pour moi, tout assez. Alors, c'est clair que le résultat sera toujours mieux si tu es reposé, que
Oui, bien sûr.
tu fais une prépa dans les conditions dans lesquelles je peux les faire aujourd'hui. Mais il y a des avantages aussi d'être très occupé. Mais bon. Donc, il y a ça qui se passe, il y a le Covid qui arrive, machin, tous les rêves s'envolent. Je sais plus où j'en suis. Enfin, je savais où j'en étais, je savais que je voulais remonter sur scène, il fallait que je le fasse. Mais je ne savais pas quand, comment, où, parce que ça avait chamboulé beaucoup de choses. Donc, je continue à m'entraîner, à manger dans cette optique. S'en est suivi une année où j'ai cru comprendre du coup qu'il n'y aurait jamais de championnat de France en 2021. Que le côté IFBB, du coup, c'était un peu. Bah, ça commençait à. L'IFBB France, ça pourrissait un peu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK. été 2021. Tu sais, il commençait toujours à nous faire un peu chier pendant l'année 2020 et début 2021 avec les restrictions en salle et tout. Et les masques, et les tu peux pas aller là-bas dans tel pays ou machin. Dans ma tête, j'avais réfléchi. J'avais dit, je vais remonter sur scène en 2021, peu importe où. Je sais pertinemment qu'en été, parce que économiquement, ils pourront pas flinguer tout le tourisme, je sais qu'on pourra se déplacer en été. Donc j'ai commencé une prépa en avril. J'ai dit, je commence en avril, il y aura forcément des compètes cet été. Et j'ai commencé mon régime et tout. À l'époque, je me coachais encore tout seul. Je faisais un peu avec ce que Gérald m'avait appris dès ma première prépa. Et donc j'ai commencé ma prépa, et au milieu de la prépa, du coup, j'ai vu que décidément, il n'y aurait pas de championnat de France, que ce que j'avais plus ou moins vu qu'il y aurait en Angleterre, je pourrais pas y aller parce qu'il y avait une espèce de quarantaine ou un truc là-bas quand tu venais de l'étranger. Donc j'ai dit, ok, bon, bah, il reste que la NPC. Je pensais pas avoir le niveau pour le faire. Pour moi, ce serait la marge d'après, tu vois. Mais j'ai dit, bon, bah, il n'y a que ça. C'était Olympia Amateur Portugal. Et j'ai dit, bah, feu, c'est en juillet, je vais me préparer pour celle-ci. Ce que j'ai fait, du coup. Sans savoir vraiment la caté, parce que dans ma tête, bon, je ne ferai pas mens physique, parce que une fois que tu es monté en body dès la première fois, tu peux. C'est difficile de faire du mens. Donc j'avais dit, ok, je vais refaire body à ma caté de poids. Donc c'était moins de 80. Ou moins de 85, je sais plus. Et je tenterai classique parce que bon, ça peut peut-être bien m'aller. Je savais pas trop, tu vois. Je m'étais dit, ok, je fais les deux, je tente les deux, je verrai ce que les juges me disent. Et du coup, c'est là que bah, j'ai commencé à bosser avec toi. Là, il doit y avoir une belle anecdote à sortir. Parce qu'il se
Je te laisse
passe que.
raconter.
Hein?
Je te laisse raconter.
Vous allez comprendre comment je me suis mis à bosser avec Amaury. C'est fou, hein? Mais au final, c'est la bonne chose qui s'est passée pour le coup. 2 3 semaines de Olympia Amateur Portugal. En fait, j'avais un souci que j'ai toujours, mais je ne connaissais pas les causes, et qui est le souci pour lequel je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps. Je fais de l'insuffisance veineuse qui induit beaucoup de rétention d'eau dans le bas du corps par moment. À l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Je me demandais juste ce que j'avais, pourquoi j'avais ces espèces de crises de poussée de rétention d'eau infâme dans les chevilles, dans les pieds et tout, par moment. Et à 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus, de la compétition, il se passe ça. Donc, je me mets à retenir énormément d'eau dans le bas du corps. Je me rappelle encore, j'ai pris 7 kilos en une nuit, donc 7 litres en gros. J'avais 7 litres d'eau qui se baladait dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes chevilles. Je pèse, tu sais, genre, ça me mine un peu, parce qu'en plus, je voulais faire ma caté de poids en body, et classique, je savais qu'on avait un poids. Donc je me suis dit, purée, imagine, ça arrive et tout, je suis cuit, je vais me retrouver dans un truc qui ne me correspond pas, juste parce que je retiens de l'eau. Puis esthétiquement, c'était moche comme tout, j'avais plus de définition. Donc, ça m'a miné un peu mentalement, et c'est ce jour-là, la première fois de ma vie que j'étais faible. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, parce que je suivais mon truc à la lettre et tout, j'étais très investi, j'ai dit, tu sais quoi, quand je suis, ça marche pas, ça part en vrille comme ça. J'ai dit, bah vas-y, c'est bon, je laisse tomber, j'ai mangé comme un débile. Voilà. Première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai cassé la diète. Je me suis voulu instantanément. Du coup, j'ai dit, ok, bon, t'as fait le débile, bah, tu vas te mettre à zéro carbs et tu vas faire 2 heures de cardio par jour. Et j'ai fait ça pendant 4-5 jours. Et au bout d'un moment, j'ai eu une lueur de. Enfin, j'ai eu une lumière. Je me suis dit, peut-être que je suis peut-être pas en train de faire la bonne chose malgré tout. Et du coup, je t'ai appelé toi. Parce qu'à l'époque, on se connaissait déjà. Et je savais que dans tous les cas, toi, tu venais de gagner ta carte pro d'ailleurs. Quelques semaines avant. Et je me suis dit, je pense honnêtement qu'Amaury pourra m'aider. Je vais l'appeler, je vais lui demander ce qu'il en pense. Et c'est là que tu m'as dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider à finir tes 2 semaines de préparation pour Portugal. Et c'est là que tu m'as repris en main sur la diète. Juste la diète, je crois, au début.
Je crois
Parce
que
que
c'était
le
Messi.
reste, je gérais tout seul. Hein? Je t'entends plus, gros. Je t'entends. Allô?
Bon, attends.
Allô, allô? Ça m'indique que ton micro, il est coupé.
Là, c'est bon. Ok, moi bon, je sais pas si c'est passé. Bref, non, je disais que ouais, je me souviens plus du détail, mais je sais que ouais, tu m'as parlé que t'avais pété la diète et tout. Et je me suis dit, bah, si tu veux, gros, je te guide un peu, comme ça, t'as un cadre, en fait. Et ouais, c'était que la diète, je crois que je te donnais même que les macronutriments ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Et ouais, 2 ou 3 semaines avant, ouais, parce qu'en fait, je me disais, putain, tu vois, je me suis pas forcément dit, je sais mieux que lui, mais je me suis dit, genre là, il fait n'importe quoi, tu vois. Parce que surtout avec ce qu'on fait maintenant, me dire que t'as fait zéro carb et je sais pas combien d'heures de cardio tous les jours, là, c'est à des années-lumière de ce qu'on fait. Parce que, putain, tout ce que tu bouffes maintenant et tout ce que tu fais pas, parce qu'on s'entraîne pas beaucoup et on fait zéro cardio, je me dis, putain, il a fait ruiner beaucoup de choses, là, putain. Mais de toute façon, pour n'importe qui, c'est pas le bon move, quoi. Surtout que tu m'avais envoyé ta diète, tu mangeais quand même correctement. Enfin, c'était genre, t'avais un jour haut, un jour moyen, un jour bas, mais c'était des quantités correctes et tout. Donc, en fait, passer à zéro carb, c'était vraiment, vraiment violent, quoi. Donc, ouais, je me souviens de ça ouais, c'était pour te guider à la base, quoi. Ouais.
Après, il y avait ce côté psychologique. Je savais que ça n'avait pas ruiné mon physique, mais tu sais qu'à quel point on est peu objectif. Et une fois que tu penses un peu trop, on
Ah ouais.
prépa. Moi, dans ma tête, j'avais dit, ok, j'ai été faible et je voulais me punir moi-même. En fait, j'avais dit, je peux rattraper le truc. Peut-être que j'arriverai à me pardonner moi-même si je me mets à la rue totale. Donc, bon, et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le bon move. Et du coup, bon, c'est là qu'on s'est appelé. Tu m'as proposé de me guider. Et tu es venu au Portugal, d'ailleurs. Tu m'as guidé sur la recharge et tout.
Enfin,
Putain, c'était top. Et j'avais vu, et c'est là. Hein?
t'avais réveillé la nuit pour te faire bouffer des galettes de
Oui.
riz, je m'en souviens. Parce qu'en fait, je m'étais couché, puis je m'étais dit, je l'ai pas fait assez manger, tu vois. Je me suis réveillé, et comme il était je sais pas quelle heure, je me suis dit, vas-y, tiens, mange les galettes de riz, on va pas faire cuire du riz.
T'as un régal. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup. Et du coup, il s'est passé le Portugal. J'ai fait bodybuilding le matin, je me souviens. Bon, j'avais pas fait premier call-out, j'ai fait deuxième call-out. Et on était genre peut-être 8. Donc deuxième call-out, c'était un peu le dernier call-out, quoi. J'ai dû faire 7 ou 6 sur 8. Et s'en est suivi classique physique l'après-midi. Même chose, je savais pas trop quoi m'attendre. Je me rappelle juste que je suis arrivé. J'ai vu qu'on était 22 ou 23 dans ma classe. J'ai dit, ah putain, quand même! Ça fait beaucoup et bon, je me suis dit allons-y, hein, allons-y. Je voulais quand même me rattraper parce que je me rappelle que je l'avais un peu mauvaise, même si j'avais pas le niveau. Je l'avais mauvaise d'avoir fait deuxième call-out le matin où j'ai dit c'est classique, faut que je fasse un first call-out. Et ce qui s'est passé, j'ai fait premier call-out, un peu surpris. Même quand je regarde les vidéos aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu faire premier call-out avec ce physique de
Si, quand même.
cafard. Hein?
Après, tu fais premier call-out, mais bon, c'est pas le centre du premier call-out, mais t'avais quand même une.
Ouais.
C'était les mêmes qualités en mieux que bah, ta première compète dont tu parlais. C'était que t'étais très sec et très dur et tout, tu vois. T'as quand même une certaine qualité, donc même s'il manque des choses, je pense que les juges savent le voir, quoi.
C'est vrai. Et donc du coup, j'avais fait cinquième place. Et j'avais demandé l'avis des juges ensuite. Je me rappelle, c'était Maz Ali, le head judge. À l'époque, on avait les masques, donc il m'avait dit enlève ton masque que je te connaisse. Je l'avais enlevé, il m'a dit ah oui. Puis c'est là qu'il m'a dit que la condition était bien, mais juste dit en fait t'es pas gros. Il m'a dit come back bigger.
Le faible.
c'est ça. Et je lui avais demandé, je m'appelle, j'avais insisté, je lui ai dit est-ce que classique physique c'est bien ou il m'a dit c'est ta classe, t'es bien, mais il m'a dit faut que tu reviennes plus gros quoi, c'est tout. Et du coup, ce que j'ai compris, et je lui avais demandé aussi, je lui avais dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse le NPC européen à Alicante, qui est dans 4 semaines? Et lui, il m'avait dit, oui, vas-y, tente. Si tu as réussi à te démarquer aujourd'hui, tu peux aussi te démarquer là-bas. C'est que 4 semaines. C'est que 4 semaines. C'est super long hein, quand on
Quatre
prépare 4
semaines en
semaines.
prépa, putain.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vu que j'avais vu ton professionnalisme déjà pour les quelques semaines qu'on avait fait pour Portugal ensemble, je m'étais dit, je me rappelle, je t'avais dit, est-ce que ça te dit de m'aider à aller jusque là-bas, faire 4 semaines ensemble, encore en plus de prépa? Tu avais accepté avec enthousiasme. Et c'est là que tu avais quand même un petit peu plus tout remodelé.
Ouais.
Je crois que tu m'avais un peu plus aiguillé sur le training, un peu plus sur la diète encore.
De mémoire,
Et
ouais, de mémoire, c'était plus les macros, c'était vraiment précis les aliments. Et je te disais, genre, là, baisse le volume d'entraînement ou fais ci, fais ça, repose-toi. Je
me
crois que
souviens,
c'était ça. Ouais.
c'est ça. Tu m'as dit arrête, t'es dégressif de fou. Je
Ouais,
me
oh là
rappelle.
là. Ça, c'est les séquelles de t'entraîner avec les anciens, ça. Il y avait des
Ouais.
entraînements de barbares.
Ouais. Chose qui. Après, de toute façon, c'est comme tout, il faut apprendre et trouver
Ah
ce
oui,
qui
bien
marche
sûr.
sur toi.
Et tu sais,
Mais
moi, je
voilà.
faisais les... avant de connaître Ivan, je faisais le double speed d'Arnold et tout. J'avais mal au coude, mal au genou. Mais je continuais, tu vois. Parce que je me disais, Arnold, il
Parce
fait
que tu
ça, je
sais.
veux être Arnold, tu vois.
Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et tu sais, objectivement, tu vois pas de résultat, mais tu sais, comme si t'allais te lever un matin et que ça allait marcher d'un coup. Mais ouais, c'est. Et c'est pour ça, en plus d'ailleurs, je m'étais traîné un point jambe pendant des années. Un point faible jambe. Parce que je les entraînais trop. Même si je les entraînais très dur et tout, je pense que c'était trop pour que je récupère bien. Et ce qui fait que bah, du coup, depuis quelques temps, on a trouvé un peu comment les faire grossir. Mais ouais. Donc du coup, on a fait l'Espagne. NPC européenne, là cette fois-ci, t'étais pas là. J'y suis allé tout seul avec ma copine de l'époque. Et là, par contre, pour le coup, j'ai été jugé à ma juste valeur, je pense. Et du coup, j'ai fait troisième call-out. Parce qu'au bout d'un moment, bon, c'est bien de te démarquer par les conditions, mais si t'as zéro masse, ça passe pas, tu vois.
Mais
Enfin, disons
après,
que si il te manque plein de trucs, en NPC, ça passe pas. Si t'as des points faibles et tout, c'est à moins d'avoir un coup de chance, c'est dur de te démarquer. Parce qu'ils regardent juste. Surtout les lignées en classe B, tu vois, on est toujours une tripotée, on est minimum 20 gars, donc ils regardent qui c'est qui sort du lot, ils les prennent, et puis si tu sors pas du lot, c'est ta faute, donc bah, du coup, que tu fasses deuxième ou troisième call-out, ils s'en fichent, eux, ils ont les 6 meilleurs, et puis voilà, le reste. Donc j'ai fait troisième call-out, 13e au classement, ça m'a mis un petit coup. Toi aussi, je crois, bah, on l'avait tous mal vécu, hein, c'est normal, tu m'avais préparé,
Bah, c'est
mais...
normal. Franchement, là-dessus, déjà, t'as omis un certain appel FaceTime entre les deux compètes. Mais, si, si, tu te souviens. Si, si, t'en rappelles. Mais surtout, NPC européenne, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu fais 5 et 13 à l'autre. Donc, en fait, finalement, c'est. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au final, d'un pro qualifier à l'autre, ou d'un monsieur Olympia amateur à l'autre, genre, le niveau, il peut changer vraiment drastiquement. Genre, tu vois, Romain, là, cette année, il aurait pu très bien gagner un Procal, je ne sais où, mais il s'est fait éclater en Italie. Tu vois, en fait, d'une compète à l'autre, tu peux très bien. C'est pas forcément le lieu ou quoi, c'est sur qui tu tombes et tout. Et des fois, ben, t'as un peu de chance, et des fois, t'en as moins. Pour le coup, je trouve qu'en NPC, c'est assez. Le niveau change beaucoup d'une compète à l'autre, c'est vraiment drastique des fois. Et ouais, donc, je me suis un troisième call-out. Je regardais le live de ta copine de l'époque, et je vois premier call-out pas appelé. Je fais, ah, fais chier et tout. Le deuxième call out, pas appelé. Là, je commence à fermer le live et partir. Je fais, vas-y, c'est bon. Je remets pour voir, je reçois un call out. Je fais, on fout, je referme. Et je me souviens, je t'envoie un message. Je te dis, bon, c'est pas grave et tout. Bouffe ce que tu veux, on fera mieux plus tard et tout. Vas-y, nique. Et ouais, mais je me souviens, genre, avoir été dépité, genre, me dire, putain, attends, là, je l'ai amené plein, on a bien rechargé et tout, il retient pas trop d'eau et tout, on est bien. Enfin, avec mes yeux de l'époque, hein. Et là, je me dis, vas-y, quoi? Genre, je me dis, mais attends, il peut que faire mieux que 5, c'est pas possible. Donc, ouais, ça a été un peu un coup au moral, mais au final, j'ai envie de te dire, même maintenant, je me prends les mêmes coups au moral quand c'est je sais pas qui perd, qui est, voilà. Quand t'es investi, c'est normal. Hein.
C'est ça. Et c'est vraiment, tu vois, à ce moment-là, pour le coup, que je me suis rendu compte d'un truc qui m'a fait, qui m'a boosté aussi pour la suite à être vraiment meilleur. C'est que le fait d'avoir fait 5 et 13, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, en fait, tant que t'es pas quasi intouchable, du moins que t'es pas complet, tant qu'il te manque des trucs, tant que t'as pas un physique pour vraiment bah, mettre tout le monde d'accord, tu vois, que les juges ils disent, oh, et ben en fait, tu risques de te faire. Comment dire, pas overlooké, mais qu'on te mette sur le côté sans trop te regarder, sans trop te voir. Et c'est pour ça que je m'étais dit, la prochaine fois que je reviens, en fait, il faut juste faut que les juges aient pas trop le choix, tu vois, que ça soit tellement. Je m'étais dit, voilà, je vais revenir avec tout ce qu'il faut, qu'ils puissent pas me donner de raison de pas être bien classé ou pas classé à ma juste valeur. Et c'est pour ça que, du coup, à partir de là, après cette compète-là, on s'est dit, ok, bon, bah, je t'ai dit, vas-y, je veux continuer à bosser avec toi. Et puis on a fait notre hors-saison ensemble. Et même toi, l'objectif que tu avais pour le coup, c'était qu'on revienne avec le physique qu'il fallait pour potentiellement faire mieux et potentiellement gagner aussi, quoi.
Bah ouais, c'est ça, parce que tu vois, moi je me réfère surtout au Portugal, parce que finalement, tu vois, Espagne, vous étiez une tripotée, j'ai vu que des trucs au téléphone, je me rendais pas bien compte de qui était devant toi, qui tout ça, donc je me réfère au Portugal. Et surtout, toi, tu voulais refaire Portugal, parce que c'était une belle compète. Et je sais que aussi, quand tu perds une compète et que c'est violent, t'as pas envie de retourner au même endroit. Donc, je me disais, ok, Portugal, attends, il est dans le top 5. Il a la condition, il a une qualité musculaire, mais qu'est-ce qu'ils ont les mecs devant lui? Parce que devant toi, il y a des mecs qui n'étaient pas aussi secs. Bah, c'est de un, la ligne, et de deux, la masse. Surtout sur les jambes, le dos, tout ça, tout ce qui crée justement bah, la ligne finalement qui l'amplifie. Donc je me dis, attends, si on fait les calculs, parce que moi j'aime bien être très terre à terre, je me dis, si j'ajoute du dos et des cuisses à David, sachant que les bras, les pecs sont un peu au niveau. Bah, il peut quand même avancer sur l'échiquier, quoi, et se rapprocher d'une première place. Donc je veux dire, écoute, on va penser qu'à ça pendant un an et demi, et on a pensé qu'à ça pendant un an et demi, et du coup, bah, on a pu revenir avec un package bien meilleur du coup. Et le meilleur référentiel, c'est de revenir au même endroit et de justement progresser dans le classement et tout. Ouais, la saison a été pour le coup très productive, c'est cool. C'était la première fois que je t'avais sur tous les aspects, la diète, le training et le reste. Mais c'était cool, mais tu vois, au final, comme quoi perdre, au final, c'est bien, ça met le coup de pied au cul, quoi.
Grave, 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 et c'est ce que je dis souvent. Bah, l'avoir vécu, ça m'a fait réaliser, et des fois je me dis, bah, tu vois, si j'avais arrêté au Portugal en 2021 et que j'étais pas allé jusqu'à l'Espagne pour prendre une maxi fessée, bah, peut-être que j'aurais pas été autant boosté pendant 2 ans, tu vois. Parce que je me suis dit, vas-y, cinquième, tu sais, je me serais dit, peut-être à l'entraînement, cinquième, c'est bien, il me reste que 4 places à grappiller, machin. Non, là, dans ma tête, j'en avais 13, tu vois.
Ouais, 13,
Donc,
c'est beaucoup.
fallait se bouger. Fallait se bouger, les
Oui.
tupperwares, fallait les bouffer, enfin, tu vois, c'était particulier. Et je me disais, en fait, la montagne, elle est énorme à gravir, je peux pas me laisser un moment de répit, quoi. Donc ouais, on a bossé ainsi, et puis c'est vraiment sur ces 2 années-là, pour le coup, après être revenu cette année, même si bah, l'objectif qu'on avait de gagner un overall sur le Pro Qualifier et la carte, on l'a pas atteint, on s'en est quand même rapproché, et c'est cette année vraiment que je me suis dit, en fait, même si je pense qu'il y en a qui sont peut-être plus doués sur la ligne, moi j'ai mes avantages à moi, tu vois, d'un point de vue génétique, la condition, la dureté. Même si t'as des gars, même sans beaucoup de muscles, ils ont déjà la ligne classique, machin, truc et tout, tu vois, des fois on dit c'est une KT, dès que t'es né, on sait que tu peux la faire, machin, bref. Bon, moi c'était pas le cas. Et je me suis dit, en fait, avec le travail, en ajoutant beaucoup de muscles, en fait, ta ligne, tu peux la créer et tu peux gravir les échelons juste en bossant, tu vois, en bossant et en restant. C'est un terme puisque pour moi il résume beaucoup, mais tu vois, en restant obsédé par ce truc-là, tu vois, peut-être en étant peut-être un peu plus que les autres, bah, du coup, ça te permet de prendre de l'avance et de monter petit à petit. C'est pour ça qu'au final, maintenant, pour l'avenir, vu que ces 2 années-là m'ont prouvé ça, bah, j'ai plus tellement de doutes. Je sais que peu importe le temps que ça prendra, si je veux un truc, je pense que je pourrais l'avoir, tu vois. Donc, ça a été un gros boost mental cette année pour le coup. Parce que moi-même, je pensais pas pouvoir revenir. Comme je te l'ai dit, tu vois, après Portugal de cette année, je pense qu'on ne sait pas pouvoir avoir ce physique, tu vois. Donc ouais, j'en étais très content.
Et tu vois, cette année, parce que pour donner les résultats, pour ceux qui ne savent pas, on n'avait pas réussi à avoir l'overall du Régio, mais on avait gagné toute la classe B, qui, bah, comme tu le disais dans les autres compètes, à chaque fois la classe B, bah, c'est la taille moyenne, donc c'est là où il y a le plus de monde, ce qui est quand même, à mes yeux, toujours une bonne victoire.
On était 18.
Et ouais,
J'ai
donc.
tremblé quand j'ai vu ça. Toi, t'étais content. Ah, parfait.
J'étais
18,
prêt.
parfait.
C'est toujours ma réaction.
Ah,
Et
je me rappelle encore.
j'avais dit ça?
Ben, le mec de backstage m'avait montré l'affiche, parce que je l'ai harcelé, je lui disais, on est combien en classe B? Il avait fini par me montrer l'affiche. Il avait compté, il avait dit, oula, putain, 1, 2, 3, il avait 18, ça prenait 2 pages. Et je t'avais dit, putain, gros, on est 18. Je t'avais envoyé un message, toi, t'étais dans les tribunes, t'étais pas encore arrivé backstage. Tu m'avais répondu, parfait, gros. Je te demande, t'es sûr?
Ah, c'est comme quand. Parce qu'après, en juillet au Portugal, tu sais, t'avais mis en classe C, là. Et genre, toi, t'étais trop dégoûté et tout. Et genre, moi, je me disais, mais. De toute façon, on veut battre tout le monde. Enfin, pourquoi. Où est le problème, tu vois? Je me disais, mais de toute façon, nous, on veut l'overall numéro. Enfin, tu bats tout le monde si tu prends l'overall. Enfin, tu vois.
Oui, ça va.
Mais. Ouais, donc, on avait perdu l'overall bah, à Nathan, qui est désormais ambassadeur Imperium aussi. De peu, franchement, parce qu'encore une fois, c'est un parti pris que les juges ont eu. Mais dans les deux sens, à mes yeux, ça irait, parce que chacun ont leur qualité. Et après, on a fait deux fois le Portugal. Donc, on a fait le Mr. Big Evolution en mai. juste derrière le Régio. Tu avais fait deuxième sur je sais pas combien de gars aussi, genre peut-être une vingtaine. Ce qui était bien aussi, franchement, parce que tu te dis, bah, je mets une vitesse à je ne sais combien de gars, et il y a un seul mec qui est devant moi. Et
Et c'était le
ensuite.
deuxième de l'année d'avant. Donc au final, sa première place,
Oui,
tu vois, il l'a
du
pas
coup.
volée.
Ouais, voilà, tu vois. Et ensuite, en juillet, on a refait au Portugal. Cette fois-ci, bah, c'était celle que tu avais faite en 2021. Donc, c'était le mieux sur l'Olympia Amateur Portugal. Et là, bah, au lieu de faire cinquième, tu avais fait second. Et le niveau était honnêtement presque autant, voire plus relevé que l'année d'avant. Je trouve que les mecs du top 5 étaient plus secs et massifs que les mecs du top 5 d'il y a 2 ans en plus, tu vois. Donc, franchement, c'était une belle victoire. Puis en plus, tu es passé devant le mec qui avait gagné le NPC European, là où tu avais fait 13e. Lui, justement, a fait 5e derrière toi, donc déjà, c'est une belle victoire. Et bah, il nous manquait juste, et même aujourd'hui, en regardant les vidéos, je sais que tu les regardes tous les soirs pour t'endormir, que les vidéos des comparaisons de ce Portugal-là, le tout dernier en date, eh bien, c'est très, très, très serré. Et bah, en fait, on a affaire à un premier et un deuxième, donc toi et l'autre, qui sont finalement très différents dans leurs atouts et le type de physique qu'ils ont. Donc, au final, à mes yeux, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Mais bon, voilà, on en est là. Et t'as refait deuxième du coup, mais encore une fois, deuxième devant je sais pas combien de mecs. Et quand je vois le gagnant de l'overall, là, le petit black, je me dis, finalement, qui a jugé cette compétition? Et était-il sobre, quelque part? Qui a glissé un chèque? Non, mais bref. Donc, ouais, on a frôlé de très peu nos objectifs qui sont de bah, faire premier en classe B, choper une pro card et gagner un overall d'un réseau. Mais comme on est passé très proche, bah, finalement, on s'est dit tous les deux que bah, voilà, c'était quand même une belle avancée, quoi. On n'a pas ce qu'on veut, mais on l'a frôlé de tellement peu qu'on l'aura forcément un jour, quoi, c'est ce que tu disais.
C'est ça. Mais même au-delà des classements, tu vois, le fait que bah déjà dans chacune des compètes, je vais prendre le régional à part, mais dans chacun des deux procals qu'on a fait, je me rappelle que déjà, tu vois, quand ils appellent le premier call-out, j'étais direct le premier appelé. Tu vois, déjà dans ma tête, je me suis dit, bon, tu vois, genre, c'est équipe vraiment cette année, je pense qu'ils peuvent pas me louper parce que j'ai vraiment, bah, j'ai plus ou moins ce qu'il faut. Et à chaque fois, enfin surtout sur le premier procal, je crois, dès qu'ils nous ont appelés, ils nous ont mis en ligne, moi j'étais à l'extérieur. Et avant qu'on fasse quelconque pause, la head judge me rappelle, elle a dit tel numéro, c'était moi, elle a dit tu vas au milieu. Et je me rappelle celle-là dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'ai grave le niveau de mes espérances, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, j'en suis capable. Et bon, après, on l'a loupé, mais bon, ça m'a confirmé encore une fois que le fait d'avoir fait les deux en plus de ça. Parce que bon, je me suis, tu vois, on t'en avait parlé dans d'autres vidéos, mais on a réussi à améliorer le physique de compète en compète. Et le fait d'être constant dans les classements avec un nombre d'athlètes aussi gros, ça m'a fait me dire, ok, bon, vraiment, c'est parce que bah, je pense que le niveau est là. Tu vois, c'est pas comme en 2021 où par chance tu peux te hisser dans les classements, machin. Là, je me suis dit, c'est juste que bah, j'ai la chance, enfin, j'ai pas de la chance, mais j'ai le niveau avec lequel ils peuvent pas me mettre ailleurs. Donc voilà, c'est que je pense que c'est une question de temps et c'est en plus ce que les juges ont dit. Et ce qui m'a motivé encore plus du coup, c'est que bah, ils m'ont dit continue parce que bah, là c'est proche quoi. On dit c'est proche, si tu continues ta saison, bon j'en avais un peu. Enfin, j'aurais pas pu la continuer. J'aurais pu, mais vas-y. Financièrement, ça commence à être compliqué parce que ceux qui font des pro-qualifeurs savent combien ça coûte d'aller à l'étranger, de payer une compétence NPC, machin, tout ça. Donc je me suis dit, écoute, on reportera l'année prochaine, et c'est ce que tu m'as dit aussi. En plus, on a la chance de pouvoir ajouter des kilos de muscles.
Bah
Donc
oui, en plus, t'as le poids augmenté, je crois que t'as 90 maintenant. Non, 80.
91.
T'avais droit à 90.
J'avais droit à 89.
89. Maintenant, c'est combien?
91.
Donc, mon poids à moi en pro, quoi.
C'est ça.
Très
C'est
bien.
ça, c'est ça.
Donc,
Mais
ouais.
j'y serais pas aux 91 kilos.
Bah non. Enfin, j'espère pas, parce que si on a le temps d'atteindre les 91 kilos secs avant que tu aies ta procarde, c'est
Ouais,
qu'on a ramé quand même.
c'est
Mais
vrai.
ouais, donc ouais, tu vois, puis en plus, au vu du weight cap, t'as une énorme marge. Donc se dire, j'ai 10 kilos en moins que peut-être certains gars qui font ma taille et tout, puis quand même je performe et tout, donc c'est cool. Puis c'est ce que j'avais noté quand j'avais fait un petit post récap de toute ta saison. C'était en fait trois fois d'affilée on a performé, donc finalement il y a une récurrence sur trois plateaux différents. Deux, je me hisse pas plus loin que la seconde place. Donc ça, c'est encourageant. Et puis pour du
C'est
coup
ça, c'est ça.
2024, ouais, comme tu le disais, c'est réajouter du muscle. Et tu vois, comme je te disais, ce qui est assez cool, surtout là, ça permet de relativiser aussi le fait que tu as eu un léger arrêt, même si tu y reviens facilement là avec ton opération, c'est qu'au final, demain, tu te représentes avec le physique que tu avais au Portugal en juillet. Même si t'as pas progressé, on s'en fout parce que t'as tout ce qu'il faut, quoi. Sachant qu'il y a plein de gars derrière toi qui ont pris leur pro-card à d'autres occasions et tout, tu vois, qui ont fait 3e, 4e, 5e. Donc, le but, c'est de s'améliorer, évidemment, attention, mais je veux dire, on peut se représenter à plein de pro-qualifiers et les gagner avec ce physique-là, quoi. Tu vois.
Ça m'embêterait de remonter avec le même physique, mais on
Ah, c'est
pourrait.
normal.
Mais moi, je sais que ça m'embêterait au fond de moi.
Imagine remonter avec un physique pire qu'il y a 2 ans.
Oui, non, mais toi, c'est particulier, tu l'as voulu aussi. Putain.
C'est Nathan, il m'a envoyé des photos là, je sais plus, la semaine dernière pour justement faire le poste de l'annonce qu'il allait être ambassadeur. Puis il m'envoie des photos, il fait putain, c'est là que je me rends compte qu'il y a 1 an, j'avais un meilleur physique et tout. Je fais, tu veux parler de ça? Et tu veux
Je lui avais
parler?
dit à Nathan, en plus.
Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais
Je
pas,
lui ai dit
il était
que.
plus
Ah
lourd
ouais.
ou pas? Parce que finalement,
Non, mais il était
peut-être
plus
lourd de base.
sec et plus rond.
Ouais, c'est vrai
Je
que
sais
j'étais
pas.
venu. Bah, ou aussi, il a eu moins à se mettre la mort, peut-être l'année d'avant. C'était peut-être un peu moins violent,
Oui.
quoi.
C'est ce que je lui ai dit. Pour moi, son meilleur niveau, il l'a eu en 2022. Olympia Portugal 2022. Mais bon, il le sait, et puis de toute façon, il reviendra comme il faut. Mais ouais. Je sais plus où on en était, mais oui, on dit, oui.
Je pense
Bah,
qu'on a fait
peut-être
le
que
tour.
tu voulais qu'on en vienne à l'année prochaine.
Ouais, donc avant de lancer de toute façon l'enregistrement, on en parlait. On n'a même pas encore le calendrier, donc c'est dur de se positionner pour les pro-cal, mais de toute façon, ce sera certainement déjà l'ouverture avec certainement un truc courant avril avec le Rigio. Donc ouais, je pense qu'on va mimer un petit peu notre saison quasi de 2023 en 2024 en termes de zone de temps. Parce que ouais, là, le but, ce serait que. Parce que là, tu reviens d'une opération, comme on le disait, mais c'est surtout le bas du corps n'a pas trop bougé. Même là, le bas du corps, finalement, revient assez bien. Faut juste qu'on arrive à te réavoir bien plein, bien gros, et garder ça, et descendre peu à peu, à peu, à peu, à peu, pour amener la meilleure version possible, quoi. Donc, ouais, niveau des shows, je sais pas trop ce qu'on fera. Je me dis, si on a l'occasion de tenter un Portugal, pourquoi pas? On a les clés, on est à la maison maintenant, on y est tellement allé. Puis c'est très sympa. Parce que du coup, moi j'ai eu l'occasion de le faire aussi de Portugal, et je trouve que j'ai toujours regardé du public, et cette année j'ai eu la chance d'y participer aussi, et franchement, les backstage et tout, enfin je trouve que c'est vraiment. C'est évidemment une belle pièce, mais la scène est top, les backstage sont très beaux, enfin c'est. En tant qu'athlète, c'est vraiment un plaisir de faire cette compète-là pour le coup. Puis elle est pas loin, donc.
C'est ça.
Ça serait cool de choper la carte
C'est
là-bas,
ça, c'est
pour le
ça.
coup.
Ce serait beau. Maintenant, comme tu m'as dit, dis-moi si je me trompe, mais en gros que si on est bien dans les classements, on enchaînerait jusqu'à l'avoir, quoi. On
Bah, je
ferait plus de
pense.
compétitions s'il y avait besoin que
Ouais, parce qu'en
cette
fait,
année.
c'est un truc que j'avais pas bien intégré, parce qu'en fait, moi, j'ai eu ma carte du premier coup et je pense que ça a joué. Mais moi, en fait, je voyais pas ça avant de me rendre compte que les autres, justement, enchaînaient. Je me rendais pas compte que c'était important d'enchaîner en fait. Parce que comme on le disait avec 2021, il y a une compète, tu fais 5 et une compète, tu fais 13. Donc il y a des fois où tu te situes. Enfin, tu concours avec des mecs qui sont très loin devant toi, et il y a d'autres compètes où tu mets une vitesse à tout le monde. Et quand tu as vraiment le niveau d'être pro et les ambitions de performer en pro et d'avoir la carte, bah autant enchaîner des compètes parce que les gars qui te passeront devant. Si t'as le niveau d'être pro, ils ont le niveau d'être pro aussi, et autant tous vous retrouver en pro ensuite. Donc c'est pour ça que je me dis, au final, autant enchaîner, tout le monde enchaîne, et je pense que c'est aussi pour une raison. Et puis ça permet de s'améliorer de show en show, on l'a vu là, même avec des shows assez espacés. Et même, on maximise les chances, tu vois, parce que par exemple, tu vois, Romain, comme je te disais, on a fait un seul pro-cal, il a fait 10e sur 22 mecs. Mais demain, on en aurait fait un autre. Peut-être qu'il aurait fait premier, peut-être qu'il aurait fait troisième. En fait, c'est tellement variable qu'à mes yeux, il faut absolument enchaîner. Et puis, au pire, si tu chopes pas la carte, tu chopes plein de médailles d'or ou trucs comme ça. Et puis, tant mieux, tu vois. De toute façon, le but final, c'est d'aller le plus loin possible en étant pro. Le but final, c'est pas la carte pro. Donc, la carte pro, que tu l'aies en Tchécoslovaquie contre 3 mecs ou que tu l'aies à Las Vegas contre 150 mecs, tu l'as. Évidemment. C'est plus plaisant de l'avoir dans les meilleures conditions possibles et mettre une raclée à tout le monde. Évidemment, j'y conviens, mais enfin j'y viens, mais faut pas oublier derrière que le but d'une carte pro, c'est être pro. Donc c'est pas seulement l'avoir. Donc c'est pour ça, ouais, je pense qu'on va enchaîner, mais ça veut pas dire qu'on va enchaîner avec des compètes de merde, mais je pense qu'il faut qu'on enchaîne avec des beaux pro qualifiers, quoi. Qu'on en
Bah, de
profite.
toute façon, sur la période, gros, il y a. Si tu regardes bien, il y a. Ça commence avec le Big Evo qu'on a fait cette année, Big Evolution en mai. Après, tu as souvent, quelques semaines après, je crois que 3 semaines après, il y a Ben Weider en Espagne.
Oui.
2 semaines après ça, il y a Olympia Amateur Espagne, en juin. Et c'est 4 semaines après ça qu'il y avait le Olympia Portugal. Après cette année c'était particulier parce qu'on avait déjà le régional en première ligne de mire et c'était super important. Donc, je me rappelle qu'on avait fait beaucoup de semaines de prépa avant le régio et c'est pour ça qu'après le premier Portugal je me suis dit écoute on va appuyer un peu sur la pédale de frein et puis on te remettra à bloc quelques semaines. Enfin, en fait de faire l'Olympia Portugal 10 semaines après le Pro Qualifier en mai. Bah, ça nous permettait d'avoir cette petite période de break et tout. Et c'est vrai que c'était assez intéressant parce qu'au final, ça m'a. Je sais pas si c'est ça, mais ça m'a permis d'être peut-être un peu plus reposé et du coup d'amener un physique
D'accord.
encore mieux
On
en
a eu
juillet.
des. Comme on avait eu. J'ai eu l'occasion d'en parler en détail justement sur l'Imperium. Il y a tout le détail de ta semaine de Peak Week, tout ça, où j'explique un petit peu le contexte. Comment dire, t'as pas mal bougé, et de mon côté aussi, je pense que j'ai fait des choix qu'il fallait pas. Et en fait, les deux situations se sont imbriquées. Et au final, bah, on a mis un gros coup de fatigue à ton physique. Et il a fallu du temps pour reprendre un petit peu, comment dire, d'élan, quoi. Donc là, moi, dans ma tête, mon plan pour la saison suivante, si on en parle comme ça, il y aura évidemment le Réjo pour l'ouvrir, parce qu'il nous faut la qualif. Maintenant, la tienne, elle va être périmée quand on va arriver en avril. Donc faut la qualif et ensuite derrière enchaîner les procales. Mon but, c'est plutôt de performer sur les procales que sur le Réjo. Mon but et ton but, évidemment, c'est de tout gagner, évidemment. Mais il faut aussi se dire, on ne peut pas être à 100% dès le départ et le rester jusqu'à la fin. Donc je pense pour moi que. Comme je disais là, on va essayer enfin, de garder un physique gros, massif et bien plein, et de doucement le descendre en body fat, et d'arriver au régio, comment dire, sans avoir à faire peut-être mille et une modifs, et en t'amenant vraiment, comment dire, en ayant travaillé un peu sur comment dire, ta densité et tout, parce que là, tu vois, on fait beaucoup de lourds, on fait beaucoup de contractions, on fait ça fréquemment, on fait ça depuis un bon moment. Ça a joué un peu de temps, tu le sais, sur tes fessiers, sur les ischios, avec, enfin, entre les deux, Portugal, tout ça. Je sais que ça jouera sur long terme, et donc même sans être absolument écorché, en étant simplement sec, je sais que déjà, tu peux mettre une bonne vitesse à tout le monde avec la qualité, avec la condition qui en ressort, les détails, et derrière, garder quand même du levier en termes de fatigue et d'effort, et de diète basse pour la suite, et donc. Arriver au Réjo avec un physique et. Tu vois, de toute façon, ils ont privilégié Nathan à toi, donc je sais qu'en classé physique, ils veulent avant tout une ligne, finalement. Qu'amener un physique qui est bien plein, bien rond, bien, tu vois, bien classique, et ensuite tirer plus sur la condition pour les pro qualifiers, parce que pour les pro cal, il y a vraiment pas le. Faut pas laisser la place au doute, quoi. Alors là, vraiment, faut être conditionné. Mais c'est ça ma vision du truc. Parce que je pense que le Réjo, il n'y a pas à se buter pour rien. Ouais, de toute façon,
Bon.
faudra voir le calendrier, voir l'espacement un petit peu de tout ça, évidemment. Parce que bon, on nage toujours dans le flou, c'est ce que j'aime pas. Mais après, au final, tu vois, tous les ans, c'est un peu la même chose. On retombe toujours un petit peu sur les mêmes dates, les mêmes moments,
Oui,
mais
c'est ça.
c'est pas précis, quoi. C'est pas précis.
C'est ça. Tu peux déjà avoir une petite vue d'ensemble, même si c'est pas précis.
Du coup, j'ai quelques questions, parce que finalement, on a fait le tour de un petit peu brièvement ton parcours quand même. pourquoi tu as commencé, tout ça, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Et je vais te poser des questions assez vastes, comme j'ai fait avec Romain, parce que je trouve ça assez intéressant d'avoir ton avis sur certaines choses autres que ce qu'on a vu là. Je vais te demander, pour toi, qu'est-ce qui serait à améliorer, à tes yeux, dans le monde du bodybuilding? Et ça peut être dans les compétitions, ça peut être la façon dont sont traités les athlètes, dans je ne sais quoi, dans une mentalité, dans plein de choses. S'il y a des choses que toi, à ton échelle, en tant qu'athlète et en tant que coach, tu trouves qui pourrait t'améliorer, mais ça peut venir de plein d'endroits.
Je sais pas, je vais dire c'est en France, mais c'est peut-être pareil partout. Mais je trouve que les mentalités sont un peu. Putain, comment dire ça? Tu vois, moi par exemple, en tant que coach, je veux pas me spécialiser dans la préparation physique de body, même si j'en fais quelques-uns. Mais parce que j'ai pas envie de passer mon temps dans les compètes tous les week-ends, parce que c'est un monde malgré tout qui me. Tu sais, j'ai mon cercle d'amis dedans, mais j'ai l'impression que les autres personnes, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes. Il y a beaucoup de jalousie et tout. Et c'est pas un mythe, tu vois, il y en a qui en parlent, mais je trouve que c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce que un tel va critiquer la méthode d'un tel, et machin, il prend tant, et moi je fais ci, et tel coach il fait ça. Mais enfin, au final, tu vois, il y en a plein qui réussissent, il y en a plein qui réussissent pas. Enfin, tu vois, genre. Et comme je dis souvent, au final, ce dont les gens se rappelleront, c'est le résultat sur scène, tu vois, que ce soit pour le coach ou l'athlète ou machin. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de trucs autour de la base qui est le performer à la compétition et le résultat. Il y a trop de blabla, On s'en fout. Ce qui compte, c'est le jour où on fait du bodybuilding. Donc ça se passe sur scène. Il n'y a pas besoin de faire des stories pour dire que tel coach il fait ci, que tel athlète machin. Ça, je trouve ça dommage, tu vois. Je trouve qu'il y a trop
Il
de
gagne.
commérages, de piaillages. Et je sais pas si c'est parce qu'à la base c'est un sport qui est, bah, comme on le disait au début du podcast, qui est pratiqué par des gens qui à la base sont complexés et que du coup ils se créent une espèce de seconde personnalité. Maintenant, du coup, vu qu'ils ont un physique, ils peuvent attaquer un tel ou un tel, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je sais pas si c'est ça. Des fois, j'ai réfléchi à la question, mais encore une fois, pour avoir fait du basket avant, enfin, je veux dire du basket, j'en ai fait longtemps, donc je suis resté aussi longtemps dans plus ou moins presque. J'ai fait 9 ans de basket, donc c'est presque le même temps que je fais de la muscu. Il n'y a pas ça, tu vois. Il n'y a pas ça, il n'y a
Après, tu vois,
pas.
on avait Walid sur le podcast avait dit que ça, il le retrouvait dans les autres pays, tu vois. Genre, lui, pour
Ouais.
avoir justement fait un peu des pro choix à droite à gauche, du moins, c'est ce qu'il m'avait dit sur le podcast, c'est que finalement, il le retrouve un petit peu partout, tu vois. Apparemment, c'est pas que français. Mais je suis assez d'accord. Ouais. Et tu vois, je l'avais pas
Mais
vu comme ça, c'est marrant que tu le dises comme ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a finalement trop de blabla autour de comment on arrive à le résultat sur scène, etc. Alors qu'au final, on fait des compétences slip et je trouve que bon, beaucoup de. Ouais, il y a beaucoup de qui est le meilleur, non, c'est moi, parce que si, puis lui, attention, c'est cela. Ouais, je sais pas.
qui gagne.
Qui gagne? Ouais, c'est ce que je disais.
Qui gagne en fait.
Qui gagne? Mais
C'est
après, tu vois,
tout.
dans un sens, je pense qu'on est tous peut-être un petit peu coupables de parler sur un tel, mais je veux dire, il y en a, en effet, ils se tempèrent pas, puis en public, et enfin, bon, c'est vrai que c'est assez délicat ce milieu-là, quand même, là-dessus. Je suis d'accord.
En fait, il y a une espèce de... Merde, attends, il y a un petit bug sur mon ordi. Je sais pas si ça a coupé. Non, c'est bon. Il y a une espèce de clivage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de petits pôles de personnes, d'équipes, et que bah, c'est comme une espèce de petite bataille. Il faut pas soutenir le projet d'un tel parce que c'est un tel. Il faut pas. C'est nul. Je sais pas, moi, quand je vois les Anglais qui parlent, genre, même s'ils sont pas coachés par Jordan Peters, ils disent train by JP, c'est énervé, enfin, tu vois. Je sais pas, c'est.
Il y a un
Enfin
truc.
bref, c'est peut-être ça que je trouve dommage et qu'on pourrait améliorer. Sinon, le reste, le sport, il est ce qu'il est, tu vois. Bah, il est, je pense, payé à sa juste valeur. Parce que qu'on le dise enfin, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sport qui ramène le plus de téléspectateurs non plus. Ouais, les bosses sont pas payés comme les footballeurs, mais enfin, c'est parce que pas tout le monde regarde autant, tu vois,
Voilà.
donc c'est normal. Donc pour ça, peut-être juste un truc dont je pensais la dernière fois, qui devrait peut-être être régulé, tu me diras ce que t'en penses, je pense que ça peut être un bon débat. Mais je sais pas si t'as déjà vu l'écart entre les récompenses financières sur les Open et les autres KT. Genre Open, c'est souvent le triple des autres catégories, alors que tu vois, genre, même si ça demande peut-être pas autant de sacrifices et tout, une KT comme Classic Physique, je pense qu'aujourd'hui, elle ramène autant de monde que l'Open sur les compètes. Même peut-être plus. Donc.
En termes de sacrifice, je pense que les mains physiques, les classiques physiques et les open prennent sensiblement la même chose.
Ouais.
Ouais, j'ai souvent vu passer des gens critiquer les cash prizes. Je t'avoue, je m'en fous un peu parce que c'est pas ça qui va rembourser ta prépa. Cela dit, il y a un geste, et donc évidemment, c'est bon de se demander comment bah, proportionnellement parlant, ils ajustent ça, quoi. À mes yeux, l'open, quand même, c'est le cœur de la compétition. Maintenant, comme tu le disais, je sais plus pourquoi tu le disais. Ah oui, par exemple, le bodybuilding rapporte pas autant d'argent qu'un footballeur. C'est la même raison pourquoi le foot féminin rapporte pas autant d'argent que le football masculin. C'est une question de visibilité et non pas de boycott ou quoi. En effet, si l'open bodybuilding ramène plus de monde que le classique physique, tant mieux. Mais je suis pas tellement sûr que open ramène plus de monde que classique physique, tu vois. Donc pour le
C'est pour
coup,
ça.
là d'accord. Après, côté femmes, je ne me rends pas du tout compte des cash prizes qu'elles ont. Je me doute que c'est quand même beaucoup moins. Je sais pas trop comment c'est agencé. Mais je t'avoue, c'est jamais un truc sur lequel je me suis penché finalement parce que je trouve ça assez anecdotique. Enfin, du moins, lorsque tu n'es pas le compétiteur qui fait Olympia te disant, putain, si je fais troisième au lieu de deuxième, je vais perdre telle somme, j'ai le somme. Là, je comprends. Mais je ne suis pas dans cette situation-là, donc je ne me rends pas compte. Mais
Non,
pour
mais
moi,
c'est parce que.
après, c'est peut-être dur à quantifier aussi de qui rapporte quoi, mais vu l'engouement sur les réseaux sociaux du classique physique, déjà, je ne les mettrais pas, peut-être pas sur la petite scène où ils sont, mais sur la grande scène des Open. Après, bon, est-ce que si on met les classiques physiques sur la grosse scène des Open, les mains physiques vont pas gueuler, puis les filles vont pas gueuler, puis machin, je sais pas.
C'est vrai.
Mais
C'est vrai. Non, mais vu que tu m'as demandé qu'est-ce que je pourrais apporter, enfin, qu'est-ce que je pense qui devrait changer. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses selon moi qui devraient changer, mais bah, ça, c'est un truc auquel j'ai pensé, qui je pense pourrait changer dans les années à venir. Mais sinon, honnêtement, peut-être, je ne sais pas si ça a été pris comme mesure, mais un truc qui serait important, et encore une fois, si je parle de ça pour les pros, enfin, ce n'est pas mon cas, mais toi, ça aurait pu te servir peut-être cette année aussi, peut-être moins de stress, j'en sais rien. Et je pense qu'à partir du moment où tu passes pro, on devrait te mesurer, ça vaut pour les classiques surtout, on devrait te mesurer, je pense pas que tu vas changer de taille, tu vois, genre tu passes pro, bon, à moins que tu passes pro à 17 ans, tu passes pro, on devrait te mesurer et te dire, ok, ta taille, c'est ça, donc toutes les compétitions, tu dois te ramener à tel poids, tu vois. Parce que
bah,
je
c'est ce
pense qu'il y a
qu'ils
toujours un peu ce...
font. C'est ce qu'ils
Ah?
font. Ils ont dit, Jim Mannion, là, il avait fait un communiqué cet été, et tu sais, il avait dit, bah, on augmente les catés de poids, tout ça, et il avait dit
Ouais.
aussi, bah, pour les mains physiques, c'est pareil, on va mettre une caté de poids maintenant, max, selon la taille, et il a dit, bah, du coup, pour les classiques physiques et les mains physiques, on va vous mesurer trois fois aux trois prochaines compétitions que vous ferez, et ensuite, on vous mesure plus, c'est votre taille fixe, la moyenne des trois.
Ok, tu vois, je trouve que c'est une bonne chose.
Ouais, je trouve c'est cool aussi.
Merci.
Après, bon, alors ça permet de pas tricher, ça c'est bien. Mais après, bon, ça coûte rien de monter sur un truc pour te mesurer non plus. Bon,
Ah
mais
mais le
c'est
truc,
pas
c'est que
pour.
les gars, ils savent jamais quel. Parce que bon, honnêtement, t'as vu au Portugal, enfin, les amateurs et les pros, on a la même toise, tu vois. Enfin, c'est le même équipement qui est utilisé. Et je sais que de compète en compète, moi, ma taille, elle a déjà changé. Portugal, bah, c'est simple, au Portugal, je fais 1m76. En Espagne, je fais 1m73. Donc il suffit que je sois juste sur le poids. Tu vois, 3 cm, mec, ça peut te ruiner une compète. Donc. Pour les pros, je trouve que les amateurs, tu ne vas pas leur donner une taille, parce que des amateurs, il y en a trop, et puis ce serait débile. Mais c'est vrai qu'une fois que tu passes pro, bah, pour le coup, si tu me dis qu'ils ont pris la mesure, c'est cool. parce qu'il y avait trop de gars qui pensaient arriver à telle taille, qui du coup avaient tel poids, et qui au final faisaient des trucs dangereux les heures qui suivaient la pesée, parce qu'ils finalement ils n'étaient pas au poids de leur taille, quoi. Enfin, ils n'étaient pas à la taille qui était prévue. Enfin bref, sinon je vois pas tellement grand chose à changer. Toi t'en vois?
C'est pas mon interview.
Ah, bon, on peut pas discuter, putain.
Je suis assez d'accord avec toi. Moi, s'il y a un truc, à chaque fois que je pose cette question, je l'attends un petit peu parce que moi, c'est le truc. Je pense que c'est le truc auquel je penserais le plus rapidement. Pas forcément le truc qui serait le plus important à mes yeux, mais auquel je penserais le plus rapidement. Ce serait les backstage. Parce que je t'avoue, depuis que je fais du body et depuis que t'en fais toi aussi, on doit s'asseoir par terre et tout. Je trouve que c'est scandaleux, tu vois. Genre vraiment, mets des chaises, mets des trucs à disposition. Je trouve ça scandaleux, franchement. Donc moi, c'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit parce que je me suis toujours dit, mais à quel moment on doit se démerder et genre c'est le bordel et tout. En plus, c'est dégueulasse, c'est backstage. Il y a plein de trucs qui traînent, les gens laissent des trucs derrière eux. Il y a des miettes de galettes de riz. Je comprends pas pourquoi c'est tant désorganisé et cela de manière universelle. Genre, j'ai pas vu une seule compète où le backstage était organisé. Donc, moi, c'est le truc que je pense tout de suite, franchement. Ça m'a toujours. Moi, j'aime bien ranger les trucs, tu vois. Donc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai comme ça.
Moi, je comprends pas, tu vois. Genre, moi, sur mon bureau, tous mes trucs sont alignés, tu vois. Donc, je comprends pas les backstage. Je dis aux gens, mettez-vous n'importe où, tu vois.
Bah, tu sais
Ouais.
jamais combien de personnes il y aura, donc ça doit être dur à organiser quand même, tu vois.
Ah, tu peux laisser des trucs. Tu peux laisser deux, trois chaises, je sais
Il y a des
pas.
chaises en général. Ça dépend, mais tu vois, au Portugal, on avait des chaises. On avait même des petites.
Oui.
Tu te rappelles au premier Portugal, on avait des petites lampes là, de
Portugal,
princesse.
c'est différent parce que les backstage, c'est des loges d'artistes et tout.
Oui,
Donc
c'est
il y a
vrai.
des miroirs, il y a des casiers, il y a des chaises, c'est normal. Ouais.
C'est
Mais
vrai,
dans
c'est
une
vrai.
compète normale où c'est genre balancé comme ça, t'as juste un espace très grand et démerdez-vous, quoi. Et c'est un espèce de Tetris géant de bodybuilder, quoi. Donc.
Colmar, par exemple.
Ouais, mais Colmar, tu vois, comme il n'y a plus grand monde qui le fait à la place de t'allonger et tout. Mais même là, en fait, même c'est pas tellement le fait d'être les uns sur les autres, c'est le côté où. Bah, en fait, c'est un peu genre, bah tiens, t'as une pièce vide, démerde-toi, quoi. Genre, je sais pas, ça m'a toujours un peu troublé, tu vois. Je me suis dit, tiens.
Ouais, moi, je me mets à la place des
J'ai pas
organisateurs.
forcément
Ça
solution.
doit déjà être.
J'ai pas
Ouais.
forcément solution. Mais je dis juste, ça m'a toujours un peu, tu vois. Genre pourquoi? Et
Bah,
pourquoi toutes les
c'est le
compétitions que j'ai
seul
jamais
sport. De
faites, c'est
toute
toujours comme ça?
façon, c'est le seul sport qui est comme ça. Donc,
Ouais.
regarde. Regarde. Bon, bah, au foot, ils ont des vestiaires. Bon, là, c'est des vestiaires, tu vois. Mais ils y passent pas des heures comme nous. Les boxeurs, bon, ils ont un vestiaire individuel, donc ça peut pas être le bordel. Mais ils ont pas plus que ça, quoi. Ils ont quoi s'asseoir, et puis. Donc au final, c'est le seul sport qui est comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas mettre des. Tu dois faire passer des tripotés de mecs sur scène. Si tu te mets à leur donner un canapé chacun et tout, mec.
Ah mais
C'est.
je sais pas, ça m'a toujours troublé. C'est pour ça que je dis, j'ai pas la solution.
Ouais.
Mais pour moi, ce serait un truc, si demain j'organise une compète, c'est un truc sur lequel quand même je vais me pencher. Je vais me dire, écoute, on va prévoir ci, on va prévoir ça. Je sais pas. Mais
Ok.
on va mettre des trucs parce que c'est pas possible, quoi. Genre, on peut pas te dire, tiens, il y a trois couloirs, allongez-vous et puis on vous appelle quand c'est bon, quoi.
Tu sais que même à Olympia, c'est comme ça, gros.
Ouais.
J'ai regardé les.
Bah, c'est quand même vachement grand et tout.
Oui, c'est clair. Mais toi, ce que tu m'as dit, c'est que peu importe la grandeur, c'est le
Hein. Ouais.
fait que ce soit vide et qu'on dise, vas-y.
Ouais, je sais pas, ils ont quand même
Mais
des chaises,
Olympia,
des
gros,
trucs, non?
Bumstead, il est
Ah
allongé.
ouais?
J'ai vu sa vidéo l'autre fois en mangeant. Il a une chaise, il est allongé, il a yep sur la chaise. C'est
Hmm.
Chris Bumstead, hein, c'est le numéro, enfin c'est le gars le plus suivi, le plus. Donc au final, non,
Moi,
je
elle a une
pense que c'est
chaise.
le sport qui veut ça. Hein?
Au moins, elle a une chaise.
Oui, bah, on a
J'ai
toujours des
jamais de
chaises,
chaise.
gros. Même au Régional de Lille, il y a des chaises. Donc.
Bon, bref, voilà. Mon coup de gueule sur les backstage.
Ok.
Une autre petite question. Qu'est-ce que tu préfères dans
Ouais.
ce sport? Ça aussi, c'est très intéressant. Et ça englobe tout, hein. Ça peut être de la préparation à la compétition, à quoi que ce soit. Ça peut être dans ta tête.
Je Le fait que plus ou moins tout. Alors, je vais pas dire que tu es maître du résultat, mais tu es maître de ta performance. À 100%. Parce que pour avoir fait des sports co et tout, enfin, beaucoup de basket, comme j'ai déjà dit, c'est différent. Tu as une équipe, c'est machin. Là, le bodybuilding, et c'est un truc que j'adore parce que ça permet énormément de travail sur toi. Et alors, tu en as quand même, je pense, qui trouvent encore des. J'aime pas critiquer ni faire ma langue de voilà, mais tu en as quand même qui trouvent des excuses. Et moi, j'aime bien ce côté-là, vu que j'ai pas forcément ce tempérament-là, de me dire
Genre
de
100% moi
dire
quoi.
tout repose sur moi. Et si ça se passe pas comme ça, c'est parce que moi j'ai fait ça, que j'ai pas fait la bonne chose, et je dois m'améliorer, et je dois machin. Et j'adore ce côté-là, parce que ça te permet de travailler énormément sur toi. Et de voilà, quoi, d'être le seul. Putain, ça va faire une grande phrase, maître de ta destinée, entre guillemets, quoi, tu vois, là-dedans.
Bah oui, genre t'as 100% de responsabilité, donc
C'est ça.
t'es 100% toi quoi.
C'est ça. Tu peux pas blâmer, je ne sais. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le fais et que je le ferai et que je le vois. Donc, je pars du principe que c'est toujours. Ça dépend de moi. Si j'arrive à tel niveau, c'est parce que j'ai fait le boulot. Si j'arrive pas à tel niveau, c'est parce que j'ai pas fait le boulot. C'est parce que j'ai pas assez attendu ou c'est parce que j'ai manqué ci ou ça. Tu vois? Et c'est pour ça que. Et c'est pour ça que des fois, ça peut faire mal. Quand vraiment tu fais tout en entier, que tu arrives à ton meilleur et tout, et de quand même perdre, et c'est ce qui s'est passé pour moi au Portugal la dernière fois, en juillet.
Mais
Parce que vraiment, j'ai toujours tout donné, et ça fait mal de te dire ce que je peux faire de mieux, ce que je peux présenter de mieux, et en fait, ça suffit pas. Tu te dis, bon, bah, mais au final, bon, bah, c'est comme ça, il faut juste que tu sois encore meilleur, et ça va être bien.
tu vois, on en avait déjà parlé ça une fois, mais le fait justement d'être qu'il y ait cette espèce de méritocratie finalement, de ces 100% moi. Alors certes, t'as un coach, t'as ceci, t'as cela, mais dans l'action, il n'y a que toi qui manges, il n'y a que toi qui t'entraînes, il n'y a que toi qui te bouge le cul pour aller à la salle, il n'y a personne d'autre. Ce côté-là de dire c'est 100% de mes efforts qui vont dicter le physique que je vais amener et de ce fait-là, plus ou moins directement mon résultat, enfin mon classement, je veux dire, parce qu'il y a toujours mille et une variables, hein, eh bien, ça fait peur en fait. Parce que quand tu arrives justement à ton meilleur, comme tu le dis, et que ça suffit pas, c'est une énorme baffe à l'ego. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le supportent pas, et c'est ce qui explique, à mon sens, toutes les tous les abandons de prépa. À une semaine, 2 semaines des compètes, ouais les gars, et tout, j'arrête ma prépa pour des raisons personnelles, mon chat est malade, tu vois, des trucs comme ça. C'est souvent ça, c'est souvent que en fait on flippe et c'est juste comment on dit en anglais the thrill of it quoi, genre l'excitation de le faire mais pas aller jusqu'au bout parce que tu vois il y a le risque de se prendre une énorme baffe et de se dire putain je donne mon max à un truc et ça suffit pas quoi, genre je suis un putain de loser parce que ça c'est une colossale baffe surtout quand on fait des deuxièmes places et tout et j'en ai fait aussi et toi tu Dieu sait que t'en as fait. À chaque fois, tu te dis, putain, en fait, il y a un mec devant moi. Et c'est extrêmement frustrant. Ouais. Et donc, échouer de manière générale, qu'on a donné son maximum, même si on pourrait avoir la. Je sais que toi et moi, on a toujours ça, de se dire, bah, ça passe pas maintenant, ça passera plus tard, parce que de toute façon, je vais redoubler d'efforts et je vais continuer. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêteraient à ça, hein, de se dire, putain, ça n'a pas suffi, et qui n'ont pas forcément l'intelligence ou la perspective de se dire bah si ça passe pas maintenant, je vais retenter, ça passera plus tard. Il y a
C'est
forcément un
ça.
moment où tu tombes sur plus fort.
Et même sans parler du classement et tout, je vais revenir sur un truc qui va te concerner toi aussi directement. Tes choix aussi. Parce que même toi, tu vois, cet été, bah, t'es arrivé pas à ce que tu voulais, que
Ah,
ce soit en
chier.
termes de résultats ou en termes de physique. Et au final, après des semaines et des semaines, t'as réussi à te dire. C'est parce que j'ai fait le mauvais choix de vouloir aller en classique, alors que c'est pas fait pour moi. Parce que je sais que t'as tout. Moi, bah, je te connais et puis on est amis à la base aussi. Donc je sais que t'as fait tout ce que tu pouvais leur saison, la prépa, machin. Tu t'es mis à la rue comme pas possible et tout. Tes circuits vélo, là, je sais pas quoi, en bicouic, là. Ah putain! Ah, bref.
Super 7,
Voilà, je sais que t'as tout fait.
Super 7
Mais au
accélération
final.
et curl biceps.
Putain. Mais au final, bah, un choix, un infime choix que tu as fait à la base de ce parcours-là, enfin de cette prépa, de ce passage en pro et tout, bah, ça a dicté le fait que bah, le résultat n'était pas celui que tu voulais, tu vois. Donc au final,
Et tu vois, et
tout
c'est
revient
là
à toi, tu vois.
où... Ouais, et tu vois, c'est... J'ai même fait une story là-dessus. Genre, quand je suis rentré chez moi le lendemain de l'an pro classique, chez moi le soir, j'avais posté les résultats, tout ça, puis j'ouvre mes DM et j'ai pas mal de... Vas-y, force à toi et tout, machin, garde le cap, t'en fais pas et tout. Enfin, tu vois, des trucs en mode pour me rassurer. Et je me souviens que, et c'est aussi ça qui finalement, tu vois, est important quand on veut être un champion ou réussir dans quoi que ce soit, c'est de se dire, enfin, c'est pas en fait de s'apitoyer sur son sort, tu vois. Genre, j'ai fait une story où je disais justement, les gars, vous m'envoyez des messages où vous me dites, ouais, t'inquiète, c'est pas grave et tout, machin. Mais je disais, mais en fait, j'ai eu le seum 10 minutes. Et puis en fait, je me suis vite repris, enfin j'ai vite repris mes esprits parce que je me suis dit, bah en fait, j'ai perdu, qu'est-ce qui a foiré, tu vois. Genre je me suis pas dit, putain, je suis une merde, ou alors je me suis pas dit, putain, c'est les autres, ils sont, tu vois. Non, je me suis juste dit, bah écoute, il y a un problème, c'est quoi la solution, point à la ligne, tu vois. Et les gens s'imaginaient que j'allais me morfondre sur mon sort, etc. Non, tu vois, genre, sur le moment, t'as le seum. Mais tu sais, à partir du moment où tout le monde a fait tomber les t-shirts backstage et qu'on a attrapé des haltères pour pump, j'ai deux yeux, hein, j'ai regardé autour de moi. Il y a Criso qui s'est foutu de ma gueule. Je sentais bien que quand on était backstage, dans le petit couloir, là, juste avant de monter, où il y avait tous les pros classiques physiques, on était en train de pump. Je voyais bien que les mecs, toute la famille à Morio, là, qui ont tous une caméra et qui sont je sais pas combien. Ils filmaient les mecs et pas moi, tu vois. Je sentais que j'étais pas dans le champ, tu vois. Donc tu te doutes bien que ton physique, il y a un problème, tu vois. J'avais déjà un peu anticipé le truc, ça m'est pas tombé dessus d'un coup. Et je me suis dit, bon, bah écoute, il y a un problème, c'est pas grave, on va le résoudre, mais qu'est-ce qui a cloché? Et je me suis dit, bah écoute, ouais, c'est le choix de la compète, enfin, c'est pas le choix de compète, c'est le choix de la catégorie. Et voilà, c'est pas grave, maintenant je sais, tu vois. J'aurais pu déjà savoir en avance parce que je m'étais déjà mis dans une caté où justement il fallait perdre trop de poids, mais c'était il y a longtemps, j'avais oublié et je me suis pensé un peu trop, tu vois. Et non, maintenant bodybuilding forever, tu vois.
C'est fou. Quand je compare la photo, je crois que j'ai la comparaison dans mon tel. Tu as dit qu'il faut jamais me laisser les youtes, mais tu sais, cette semaine avant de ta compète, quand on était au Portugal ensemble pour le mois de mai, pff, les cuisses et tout, pff, laisse tomber. Mais moi, quand je voyais ton physique, je me disais, oh là là, mais c'est ça les pros, mais je vais pas y arriver. Et après, je compare avec l'en pro, gros. Oh, t'as réduit, t'as perdu 4 tailles de vêtements. Tes pantalons, pff, putain, mais les cuisses, gros. Adducteur comme quad, comme tout, il y a tout qui est parti. Putain. C'est dingue.
Et tu vois, et
C'est
pareil en
dingue.
fait. Et même là, tu vois, ça fait écho au truc des mecs qui flippent en fait. Bah moi, j'ai... Alors flippé, pas vraiment, mais j'ai voulu être trop dans le calcul de me dire, bah écoute, je suis pas assez gros pour l'open, je suis trop grand pour 212 pour faire un truc bien, donc je vais aller en classique physique parce qu'on est tous rapport taille-poids, donc on est homogène. Mais au final, non, fallait prendre un peu ses couilles en main, puis se dire, bah écoute, je vais en body, mon physique, il sera le meilleur qui sera. On verra ce que ça fait, puis tant pis, tu vois. J'aurais préféré 1000 fois aller en body. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas fait premier. Mais et le clou au cercueil était Josema qui tape un premier call-out devant moi là.
Hey.
J'ai pris
Tu
une
pourras faire
story,
un
j'ai dit
podcast
bravo,
pour
mais un podcast sur.
Ah?
J'ai fait un podcast sur Josema, bon.
Allez,
Bon, je vais faire un podcast vraiment
l'histoire.
sur l'Ampro classique. Par contre, je vais faire un épisode de Veni Vidi Vici sur l'Ampro classique et comme ma pire compétition et dire tout ce qui a foiré, parce que c'est important aussi d'en parler, quoi, finalement, de dire aux gens que bah, des fois tout peut foirer, ça arrive et c'est pas la fin du monde. Et aussi pour faire l'épisode contraire avec l'Olympia Amateur Espagne pour dire, enfin, pour identifier ce qui a marché et ce qui serait intéressant aussi de garder en tête. Bref, bon voilà, je sais plus ce que je disais juste avant. Mais ouais, tiens d'ailleurs, aujourd'hui j'ai tourné des réels avec Thomas à la salle, et on a tourné un réel où j'explique sur le vif entre deux séries l'anecdote avec Josema, Et pourquoi je dis Josema entre chacune de mes séries? Et il y a un moment où je m'entraîne, je compte en espagnol les reps.
Ça me
Déjà,
freine petit à petit.
tu vas te régaler.
Putain, génial, génial. Et tu vois, un autre truc, bah, si on a le temps, bon, de toute façon, c'est pas très long. Mais pour revenir à ce qu'on disait, le fait que ça dépende que de toi, tu vois, je pense que c'est un truc dont on a déjà dû parler, toi et moi. Tu vois, en 2021, peu importe les scènes sur lesquelles je suis monté en 2021, c'était la première fois et la seule fois que j'étais sorti de la diète en prépa, tu vois, que j'avais craqué. Et je le savais. Même en montant sur scène, même si c'était il y a quelques semaines avant, je le savais. Et c'est dans ta tête, en tout cas à moi, c'est très différent de quand tu montes sur scène et que tu sais que tu as fait absolument tout ce que tu pouvais, que tu as essoré la diète, qu'il reste plus rien, tu vois. Et mentalement, c'est déjà très différent dans l'attitude, dans ce que. Même la perception que tu as de toi, tu vois, elle est très différente. Et ça, pour le coup, bah, encore une fois, j'aime beaucoup parce que ça te permet de te dire. Je me dois quelque chose à moi-même, je me dois d'être fier de ce que je représente, de ce que j'ai fait, de ce que machin. Et jusqu'au moment où je monte sur scène, il faut que je puisse monter sur scène et me dire. Parce que le résultat, il ne dépend pas de nous, mais par contre, ne serait-ce que juste l'état d'esprit dans lequel je vais monter sur scène, il dépend de moi, parce que ça dépend de ce que j'ai fait au préalable et du fait d'avoir donné tout ce que je pouvais, pas avoir flanché, pas avoir faibli ou quoi, tu vois. Et ça c'est très important. Et tu peux être motivé par plein de trucs, tu vois. Genre, même quand ça devient dur, et tu sais, des fois en prépa, tu te demandes pourquoi tu fais ça, tu te dis, vas-y, oh, ça rend fou, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça. Tu sais, d'essayer de trouver des excuses, de dire tout ça pour. Et des fois, je me rappelais de certains trucs. Je me disais, putain, des anecdotes tout connes. Je rentrais, c'était cette année, c'était avant le régional, là, quand c'était infâme. Je perdais 2 kilos par jour, je rampais par terre, j'étais fatigué. C'était dur. Je faisais des séances de jambes, ben, il n'y avait plus rien, 100 kilos, c'était dur au squat, enfin, bref. Et je rentrais chez moi. Tu sais, j'habite à Nice, donc autour de moi, il y a des palmiers, il y a le soleil, c'est incroyable. Et je regardais le cadre et je disais, putain, tu sais, je me faisais des réflexions dans ma tête. Je me disais, je fais un boulot qui est facile, puisque je bosse de chez moi, il y en a qui bossent à l'usine, machin. J'habite dans un bel endroit. J'ai des belles personnes autour de moi, parce que j'ai déjà Tatiana, tu vois. J'ai des personnes qui me soutiennent, qui croient en moi, qui font des choses pour me faciliter la tâche. Je me disais, à quel moment et tout ça, t'as le droit de mettre un genou à terre? Je me disais, jamais tu vas faire ça. Mais c'est pas possible, tu vois. Et des fois, les gens disent que c'est pas bien de faire les choses pour les autres. Mais il y a des moments, juste de te raccrocher à te dire, si moi j'y crois plus ou si moi j'en peux plus, il y a des gens qui croient en moi. Et je ne peux pas me permettre de les décevoir parce que, ben, bon, si tu es croyant, je te dis, Dieu, m'a donné la chance de mettre ces gens-là sur ma route et de m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. Je me dois de. J'ai pas le droit de faiblir, tu vois, c'est pas possible, c'est mort.
D'accord.
Sinon, quel genre de merde je suis, tu vois?
Mais quand tes points de repère de motivation lâchent, tout est bon à prendre en fait pour rester là. Tu vois, moi je sais qu'en 2021, je m'étais aussi beaucoup dit, putain, c'est ma première compète en inter, je représentais mon pays, tu vois. Je me disais, vas-y, vis-à-vis de mon pays et tout, je suis rien, moi, vas-y, mes sentiments et tout, ça compte pas. Genre, je suis fatigué, on s'en bat les couilles, gros, tu portes la France et tout. Bon, évidemment, j'étais pas le seul Français, voilà, j'exagère, mais je veux dire, je me disais vraiment, ça m'aidait. Enfin, quand t'es vraiment dans le mal, s'auto-convaincre de certains trucs, ça aide. Et je me disais, et au fond
C'est
de
vrai.
moi, je suis content de toujours représenter la France dès que je fous un pied sur scène, mais je veux dire, je me disais vraiment, putain, en fait, tu fais ça pour ton pays un peu, finalement, genre, tu le représentes et tout, c'est cool. T'as pas le droit de commencer à flancher sur un truc, quoi. Genre, c'est juste pas possible. Et je sais que des fois, se dire, bah, les proches, c'est pareil et tout. Et je peux comprendre vis-à-vis de ta copine et tout, de se dire, bon, bah, écoute, je suis dans la mort, mais elle fait plein de trucs pour moi. Ah, putain, vas-y. Tu vois, genre, je peux tenir encore, quoi. Genre, vraiment.
Je me rappelle, je me disais.
Et puis, petit souci de cours. Normalement, c'est bon. Excuse-moi, petit souci
Ah,
de cours.
ça a coupé pendant un moment. T'es encore immobile, t'es flou, mais ah, je crois que ça va mieux.
C'est bon?
Bouge les yeux. Parfait, super, c'est mieux. Putain, je sais plus ce que je disais. Mais
Vis-à-vis
tu sais, je me disais, en fait, on te,
ouais.
je me disais, on te demande rien, on te demande juste de tenir la diète, faire les entraînements jusqu'au bout, faire toutes les reps que tu peux, d'aller au bout de chaque série et tout. Je me disais, c'est rien du tout. Je me disais, c'est rien du tout. C'est tout petit, c'est rien. C'est facile. T'sais, des fois, il y a des gens, ils me disaient, à la salle, j'étais en prépa pendant un moment, ils m'ont vu écorcher pendant un moment. T'sais, des fois, ils me disaient, bon, comment tu fais là? C'est un peu extrême, ça fait longtemps et tout. Moi, je disais, non, c'est pas extrême du tout. Je me disais, c'est... T'sais, je me convainquais, je me disais, c'est facile. C'est grave facile, c'est tout petit ce que je fais, tu vois.
Et en
J'essayais de
réalité,
minimiser la chose. Parce que quand tu dis que tu le disais, ça, quand tu dis que c'est dur, c'est dur. Quand tu
c'est
dis que c'est
exactement ce que j'allais
facile, ça
dire.
devient.
C'est aussi dur que tu crois que ça l'est. Genre, réellement. Il y a vraiment des fois, et j'ai fait une story là-dessus justement, c'est ça, ça m'étonne que tu t'en rappelles, putain. Mais je disais, genre là,
Je
je
me
sens que je
souviens.
suis fatigué en rentrant la salle à pied, mais si. Je dégaine mon téléphone et que je réponds à un message, je pense plus au fait que je suis fatigué, je suis concentré sur répondre à un message ou être sur Instagram ou je sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, je suis plus fatigué parce que je pense à autre chose. En fait, c'est parce que tu penses à ce que tu fais qui te fatigue que tu te fatigues. Mais si tu t'auto-convaincs un peu que c'est pas si dur que ça, même si c'est dur, ça va relativiser le dur et ça t'aide à accrocher aussi. Si tu te dis, j'ai faim, je vais craquer, je vais craquer, je vais craquer, je vais craquer, non, tu vas craquer, genre c'est mort. Faut faire très attention à tout ça et faut. C'est pour ça que j'aime bien aussi le bodybuilding, parce que ça te permet de voir qui a du. Qui est. Comment dire, de quelle bois t'es fait, tu vois. Genre vraiment, vraiment.
C'est
Parce
vrai.
que
C'est vrai.
je sais que pour, par exemple, les combattants, bah, genre MMA ou boxe, il y a les. Comment dire. Tu sais, quand ils perdent du poids, là, ils se déshydratent beaucoup, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin bref, ça dure peut-être 48-72 heures et c'est vraiment très dur mentalement, il paraît. Et mais je me dis, mais en fait, nous, c'est ça, mais genre pendant, tu vois, X période de temps, et en plus, ça devient de plus en plus dur. Et je trouve ça super intéressant parce que toi, comme moi, on a vu plein de gens flancher au-delà des gens qui arrêtent les compètes pour, tu vois, ils ont peur de se confronter au réel. Bah, il y en a aussi, c'est parce que justement, en fait, ils n'ont pas réussi, en fait, tu vois, tout simplement. Et je trouve c'est cool aussi de se dire, bah, en fait, je suis arrivé à faire ça, tu vois. Et derrière, si tu gagnes en plus, si tu amènes un putain de physique, si tu sais que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand t'as tout fait de A à Z sans flancher, sans faire un pas de travers côté diète notamment, mais c'est pareil, pas louper une minute de cardio pour louper un entraînement, quand t'as tout fait parfaitement, ça crée une sacrée confiance en toi, parce que tu te dis, attends, pendant 3 mois, 4 mois, j'ai fait absolument tout, ni plus ni moins, tout parfaitement, mais qui fait ça en fait? Genre surtout quand tu regardes parfois les
C'est
gens de
ça.
notre âge et tout, tu te dis, mais attends, qui fait ça? Je me souviens quand j'étais au lycée et que je faisais mes prépas, je me disais, mais vous faites, je crois, vous faites la queue pour aller manger de la merde à la cafette, moi je mange rien,
Entendu le
et je
podcast tout à
m'entraîne
l'heure
le
que j'ai
soir
écouté.
après les cours à 18h, alors qu'on a fait 2 heures de maths et j'ai rien compris et j'ai dormi à moitié. Qui fait ça? Et j'ai dormi 5 heures. Et je me suis réveillé le matin à 6h, mes yeux ils étaient ouverts, je ne pouvais plus dormir. C'est reparti en fait. Et 40 minutes de vélo, et 6 blancs 2. Et c'est la journée, elle commence, tu vois. Donc, je trouve c'est. Faut pas se dire. Enfin, faut pas se dire en mode, ouais, les autres, c'est des
Ouais.
merdes, machin. Non,
Non,
mais
c'est
je veux
vrai.
dire, c'est bien de
C'est vrai,
se
c'est vrai.
dire, je suis capable de ça, en fait. Je trouve que c'est important. C'est une brique ajoutée au mur de la confiance en soi, quoi.
C'est galvanisant, c'est galvanisant. Même, puis t'as envie de pouvoir te le dire. T'as envie de pouvoir te le dire. C'est pour ça qu'en général, dès le début de ta prépa, tu te dis, je vais le faire à fond, je vais aller au bout, je serai fier de moi, tu vois. Quand tu m'as dit, moi, ça me paraissait irréel. Moi, j'avais jamais fait des très longues prépas. Enfin, j'avais toujours fait 12, 14, 16 semaines. Mais cette année, on a fait le Régio. Je crois, arrivé au Régio, on avait déjà 17. Arrivé en mai, on avait déjà 17 semaines de prépa dans les pattes. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Deuxième place au Big Evo, machin. En rentrant en France, on s'est appelé. Tu m'as dit, on va faire Olympia Master dans 10 semaines. Moi, au début, j'avais déjà envie d'en sortir, d'arriver en mai, tu vois. J'étais dans cette période de la prépa où tu te dis, bon, j'adore ça, c'est top. Et vas-y, c'est bientôt fini, il y aura l'après, je vais pouvoir me détendre, machin. Là, je me rappelle, tu m'as dit 10 semaines. J'ai coupé le FaceTime après. Et je me suis dit, bon, pas les 10 semaines. Mais je me suis dit, attends, ça fera 27 semaines de prépa en tout. C'est rien, maintenant, les pros, ils font Olympia, ils sont prépa toute l'année et tout. Au final, tu te rends compte que c'est rien. Mais moi, je ne l'avais jamais fait. Et je me suis dit, imagine comment tu seras fier de toi après, tu vois. Et aujourd'hui, je m'en fous. La vérité, c'est
Oui.
qu'aujourd'hui, je m'en fous. Mais, mais tu vois, sur le coup, je me disais, bon, penses à ce que tu penseras de toi en fait après avoir fait ça, tu vois.
Et il y a un truc que je me suis
Donc
dit
ouais.
dès ma première
Puis avec le
prépa.
temps, en fait, ta zone de confort, tu l'élargis.
Ouais, tu tolères plus. Mais il y a un truc que je redis tout le temps
C'est ça.
aux clients à moi ou à n'importe qui en fait qui fait une prépa et qui commence un peu à, tu sais, à trouver ça dur, un peu douter, un peu être tenté par des trucs. Souvent, je dis la même chose que je me disais quand j'avais fait ma première prépa. C'est t'as toute ta vie pour faire ces autres choses-là. T'as toute ta vie pour partir en vacances, t'as toute ta vie pour manger ce truc-là, t'as toute ta vie pour te reposer. Et surtout des prépas, c'est 3 mois, 4 mois en général. 3 mois ou 4 mois dans la vie d'un homme, c'est tellement rien que c'est ridicule. Je pense que les gens manquent de perspective des fois. Et je sais pas, moi j'avais peut-être l'intelligence de me dire dès le départ ça. Et je peux comprendre qu'on va pas tous les choses de la même manière, mais souvent, en fait, les gens, après, ils percutent, ils se disent, ouais, c'est vrai que, tu vois, faut arriver à prendre un petit peu de recul. Mais c'est vrai
Non,
que, ouais.
mais tu en plus tu fais bien de le rappeler, mais tu me l'as dit. Je me rappelle que tu m'avais dit un truc pareil. Je crois que c'était après la même période qu'on parlait là, quand il fallait tirer 10 semaines de plus. J'avais déjà fait 2 semaines en plus. Je me dis, il en reste 8, et je t'avais envoyé un message, je t'avais dit, gros, j'ai l'impression que j'aime plus ce que je fais et tout. J'ai juste hâte que ça se finisse. Enfin, moi, en tout cas, j'avais ces périodes. C'est naze, hein, c'est des périodes de faiblesse, mais bon, le tout, c'est de physiquement pas faiblir. Et tu me disais, gros, t'as 8 semaines. Tu m'avais compté le nombre de semaines que j'avais déjà vécues dans ma vie, si j'avais 25 ans. Et tu m'avais dit, t'as 8 semaines sur tout ce que. Et j'avais dit, ah ouais, quand même, c'est vrai. J'ai dit, ouais, c'est pas grand-chose.
C'est important, tu vois.
Putain.
Genre,
Mais bon, au final, tu vois, au final, c'est rien. Tu te rends compte, tu
Ouais,
prends. Puis après, tu dis bois.
c'est ça. Bon, bref, bon. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je te remercie de ton temps, c'était
On a bien
très
partagé ça.
sympa. Bah évidemment, alors du coup, cette interview-là, ce petit podcast-là, sera évidemment disponible à la fois sur l'Imperium, mais également sur les portes de l'Imperium, donc sur l'espace gratuit. Donc pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, qui bah, sont sur les portes de l'Empire, n'hésitez pas à rejoindre du coup l'Imperium. Pas mal de bonnes choses arrivent et chaque semaine, du coup, bah, il y a un podcast de ce style-là, parfois avec un autre invité, parfois uniquement avec moi ou un autre ambassadeur. Et chaque semaine, on a également des vidéos éducatives ainsi que des programmes, des formations qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, évidemment, vous pouvez très bien vous abonner, regarder un petit peu comment ça se passe, vous avez tout le forum avec tous les coachs qui peuvent vous répondre à vos interrogations, vos questions et vos programmes. Et à tout moment, vous pouvez arrêter votre abonnement, il n'y a pas d'obligation. On est très confiant sur le fait que vous allez rester. Donc voilà. Merci encore une fois, David, de ton temps. C'était très intéressant et très sympa. Et bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci à toi. Ciao.